Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1. Oui, je ne parle pas très fort car je ne voudrais pas avoir un café de Mimir sur la conscience. Voilà. Toutes les semaines, nous allons revenir sur l'actualité de votre discipline préférée, la Formule 1. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, ils sont trois, comme toutes les semaines. Nous avons Fab. Bonjour Fab.
Bonjour.
Nous avons Gus Gus. Bonjour Gus Gus.
Bonjour.
Et Ben. Bonjour Ben.
Bonjour.
Donc là c'est bon, je peux reprendre un débit normal. Normalement c'est bon, ça a commencé, le café n'a pas été renversé.
Vas-y, envoie du lourd.
C'est une bonne semaine. C'est une bonne deux dernières semaines, trois semaines même. Trois semaines depuis qu'on ne s'est pas vu pour le mag.
Ouais, pas mal, pas mal.
Génial.
Deux grands prix intéressants en plus.
C'était pas des semaines à la gomme.
Vous savez quoi, pour commencer cette émission, nous avons reçu un petit mail. Un mail qui vient d'outre-Atlantique, de Berthe, qui nous a envoyé ce mail. Vous savez, on a un peu parlé de Jacques Villeneuve la semaine dernière. Et donc, il nous en parle, nous dit « Comment ça, vous n'aimez pas notre petit Jacques ? Il est tordant. Oui, il a de l'expérience à prendre, mais tout de même, ça vaut le download juste pour l'écouter. Hein » Et il nous rappelle aussi que c'est le Game Boy. De toute façon, on s'en fout, on sait que ça s'appelle un casse-couille électrique.
Hein. Ça règle le
voilà.
Problème.
Et il finit, chapeau et cheers de Montréal. Donc merci Berthe de ta petite contribution, et on en profite pour saluer tous nos auditeurs du Québec. Voilà.
Non, pas spécialement envie. Il est bien Villeneuve, à part qu'il prépare pas trop ses fiches.
Moi je suis juste traumatisé parce qu'il fait repousser ses cheveux, c'est tout.
Moi j'ai trouvé que sur Bahreïn, il se plaignait beaucoup quand même.
Oh. Ah, que sur Bahreïn.
Mais c'est là où j'ai le plus suivi en fait ce qu'il racontait et je trouvais qu'il se plaignait quand même beaucoup, mais bon.
Mais c'est son rôle, hein, si ça lui plaît pas, c'est son rôle de consultant de donner son avis après tout. Hein, ça...
Ah ouais, non, mais oui, enfin, ton avis, je suis pas contre, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il se plaignait beaucoup de pas mal de choses. Il disait des trucs bien aussi, hein, il y a pas.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que.
Il y a un petit, mais quel abruti, quand Pérez touche Button, qui est un peu passé inaperçu, mais qui peut rentrer dans la légende.
Voilà.
Comme le « Oh, quel con ! Oh, merde !» de Jacques Lafitte.
Ah ouais, c'est ça. Quelle belle interprétation.
Merci, j'ai fait Jacques Lafitte troisième.
Alors les gars, j'ai une grande nouvelle. C'est Jennifer qui m'a envoyé un mail d'actu. Mais comme
ouais,
elle avait
ouais.
pas de temps, elle avait mis 3. Mais bon, c'est l'intention
ah ouais.
qui compte quand même.
Mais c'est pas bête, hein, c'est pas idiot. On aurait dû y penser.
Ouais,
elle a encore le temps du quiz pour en envoyer deux.
Bien justement, comme chaque mag, commençons par le quiz, messieurs.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Alors, qui cette semaine a une question à soumettre ?
Moi, monsieur.
Faillot.
Oh, le faillot !
Ce qui me fait peur, c'est qu'il en a l'air super
oui.
fier, quoi, tu vois ?
Oui, oui.
On va y passer des plombes.
Ah, c'est pas sûr. Mais bon, on va voir.
Mm-hmm.
Vous êtes prêts ?
Oui.
Plus que jamais. Prêt.
Alors, le bleu s'est incliné 6-4 face au rouge. De quoi s'agit-il ?
C'est une question de casque.
Non.
C'est par rapport aux couleurs des voitures ?
Non.
Le bleu, c'est un rookie ?
Non.
Le rouge, c'était quoi alors? Un alcoolique. Voilà. C'est un rapport avec la F1 actuelle?
Oui.
Cette année?
Oui.
6-4.
Une question de nationalité?
Non. J'avais des craintes que ça allait être immédiat, mais c'est bien.
C'est
ça
une
va,
question
ça
de couleur
un
de
peu.
Pneus?
Non. Non, ce serait pas très fair play que les pneus super tendres s'imposent face aux pneus plus.
Oui, c'est vrai. C'est un rapport avec un pilote en particulier ? Enfin, avec deux pilotes en particulier ?
Oui.
Mais dans une même équipe ?
Oui.
C'est un rapport avec les courses ?
Lointain.
Lointain. D'accord.
Il y a un rapport léger avec ce qui s'est passé pendant en course. Disons que si s'était pas passé une certaine chose en course, ça ne serait jamais arrivé.
C'est un rapport avec les arrêts au stand ?
Non.
C'est quelque chose qui s'est passé au dernier Grand Prix, là ?
Non. Non. Non, ça s'est pas passé, le 6-4 s'est pas fait pendant le dernier Grand Prix, non.
C'est quelque chose qui s'accumule, c'est-à-dire que c'est un score qui est renouvelé après chaque Grand Prix?
Non, non, le score, il est final.
Ah.
Il y a eu 6-4, on reviendra pas là-dessus. C'est les bleus qui ont gagné face au rouge. Le bleu qui a gagné face au rouge.
Mais c'est toi qui décrète qu'il y a un concours, ou c'est vraiment dans le cadre d'un concours?
C'est pas moi qui ai dit il y a 6-4, c'est quelqu'un, c'est acté, c'est pas de mon fait. Le bleu s'est imposé 6-4, c'est imposé 6-4 face au rouge. J'ai dit incliné tout à l'heure, je me suis planté.
Est-ce que tu te bases sur les fiches de Jacques Villeneuve, ce chiffre?
Non, c'est un chiffre vérifié, vérifiable et...
Ça n'a pas de lien avec le tennis, par hasard.
Non.
Bah, citez vos sources, mince.
C'est un résultat qui a débuté... Enfin, une opposition qui a débuté cette année ou ça court depuis plus longtemps?
Non, cette année, oui.
Est-ce que c'est par rapport à une décision où, entre guillemets, une partie a dit oui et l'autre non, et donc ça a gagné 6-4?
Non, c'est pas par rapport à une décision... Enfin, y a pas de pari ou de décision...
C'est pas un vote qu'il y a eu, non? D'accord.
Non, non.
Sur, par rapport à un résultat sportif?
On peut dire que c'est un résultat sportif, oui.
Eh bien, nous passons au podium de l'actu.
Là, je commençais à être fier de la question.
Quand tu dis bleu et rouge, c'est, enfin, ça a du sens ou c'est juste... ça aurait pu être vert contre jaune
Oui, ça aurait pu être n'importe quelle autre couleur, mais là, c'était bleu et rouge. C'est accessoire, mais c'était pour vous perdre un peu. Pour faire poser des questions par rapport aux couleurs. Mais effectivement, il n'y a aucun rapport... le bleu représente pas une écurie, le rouge une autre écurie, quoi.
Donc on est encore plus loin que je pensais. Est-ce que 6 et 4, ça représente quelque chose de physique? Ou c'est simplement un score?
C'est un score.
On peut dire 6 points à 4, ou ça serait pas adéquat?
Oui, 6 points à 4. On peut, oui. C'est pas la dénomination la plus courante, mais on peut dire, oui, 6 points à 4.
Ils auraient pas fait un match de foot caritatif, un truc comme ça?
C'est pas tout à fait un match de foot. Bah, tout à fait, hein.
Du baby-foot?
Voilà, du baby-foot.
Ah, non. C'est Vettel qui en joue. Ah bah,
c'est la pubrette
boule.
Voilà,
c'est la pubrette boule.
C'est Ben qui l'a dit d'abord. Et oui, c'est le fameux match de baby-foot entre Pit Wall versus Drivers de Red Bull qui est sorti pour montrer qu'évidemment, il y a une très bonne ambiance à l'intérieur de l'écurie.
ouais, c'est ça.
Donc effectivement, c'est un plan com de Red Bull, un magnifique match exhibition de babyfoot, exhibition pour ne pas dire amical parce que bon, n'exagérons rien, entre les muses des stands qui étaient en bleu et les pilotes titulaires qui étaient en rouge. La composition des équipes au coup d'envoi est très simple avec le mur des stands Christian Horner en défense et Adrian Newey en attaque, tandis que chez les pilotes Sébastien Vettel assure les arrières et Mark Webber est en pointe. Rappelons donc que la première équipe a 6 buts en porte. Au coup d'envoi, la première erreur arrive très vite de la part de Sébastien Vettel qui marque le premier but contre son camp en voulant dégager le ballon avec son arrière gauche. Oui. Christian Horner creuse ensuite l'écart avec son propre arrière gauche d'un tir puissant contré par le joueur déjà à l'origine du premier but mais que le gardien, décidément malchanceux, ne parvient pas à bloquer. Le patron de Red Bull Racing est d'ailleurs bien en veine. Une nouvelle tentative de loin trouve le poteau et rebondit dans le dos du gardien pour creuser l'écart à 3-0. Et même 4 après un tir puissant du milieu de terrain à mettre au crédit d'Adrian Newey qui laisse de marbre 8 joueurs adverses médusés. C'est vrai qu'ils étaient pas très mobiles, les joueurs de baby-foot. Il n'en faut pas moins pour que la réaction des pilotes se fasse sentir. Sébastien Vettel passé en attaque, un choix stratégique qui va porter ses fruits, réduit le score d'un tir imparable de son ailier droit avant de manquer le 4 buts à 2. La faute à une gamelle, une tentative trop puissante ressortante de la cage du gardien bleu.
La fameuse gamelle.
La fameuse gamelle, hein. Qui n'a jamais fait une gamelle au baby-foot. Mais le pilote allemand ne se laisse pas démonter et finit par inscrire une deuxième réalisation avec son avant-centre. Et même de 3 de chute pour les pilotes avec un but miraculeux du gardien rouge que ni Adrian Newey ni Christian Horner ne peuvent empêcher de tracer lentement sa route vers le milieu de la cage adverse. Et les pilotes égalisent même grâce à une frappe du milieu de terrain. Incroyable retournement en situation. Mené 4 buts à rien, Mark Webber remet les deux équipes dos à dos à 2 points du match. Mais il était écrit que la victoire ne pourrait pas échapper au mur des stands finalement très en réussite. Sur l'engagement suivant, une passe du milieu de terrain rouge est contrée par la ligne adverse et attirée directement dans la cage. Et c'est Adrian Newey qui conclut la partie avec sa ligne d'attaque. Victoire finale 6 buts à 4 pour Newey et Horner qui remportent, je cite, un prestigieux trophée. Mais l'histoire ne dit pas si des consignes de modération étaient données aux pilotes pour favoriser leur management.
Tout ça sous l'œil de Helmut Marko.
Et le bon.
Ah, si ça se trouve, le ballon...
Oh.
Quoi de mieux pour lui pour participer à une partie de baby-foot?
Helmut Marko a marqué 10
buts. Oh, les enfants, arrêtez de jouer avec l'œil de verre de Patrick.
Oh, bon, n'est-ce tout ça n'est qu'un vulgaire plan de com qui ne trompe pas grand monde au final.
Oh, je te trouve un peu dur là. Et bah surtout après les déclarations avant la Chine.
Oui.
Ça c'est clair. Avec Marc mérite pas qu'on respecte les consignes. Bon, je pense qu'ils peuvent faire un baby-foot. Hein, tout le temps. Ils peuvent même faire un curling, une belote. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent.
Peut-être qu'ils ont joué la saison en baby-foot. Ceux qui gagnent, ils ont raison. Si les pilotes gagnent, ils ont le droit de se battre. Si le management gagne, les consignes vont s'imposer.
Oui. Je sens qu'ils vont pas regretter du tout.
Ils ont mieux fait de faire un pilote face.
Ah ouais, bah oui. Ça aurait pris moins de temps, quoi. Enfin, t'aurais pas pu le raconter.
Oui. Oui. Ça aurait été plus court.
Oui, du diable vos verres.
Eh bien, on va passer au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Ouais.
Mais non, sois plus enthousiaste, il est...
Un podium à deux places.
Enfin.
Non, ça va, il y a des actus. Bon, et...
Oui, 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 bah bien sûr,
il y a moins d'habitude. Hein, pourtant, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de mag, mais il y a quand même des actus. Par exemple, comme toutes les semaines, eh ben on a parlé des pneus. Hein. Et Pirelli,
ah oui.
Hein. Pirelli, ça fait quand même des semaines que tout le monde leur dit « Oui, changez la structure de vos pneus ou changez vos pneus tendres. » Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, Pirelli ?« Ouais, ok. On va changer le pneu dur. »
C'est quand même que... celui qui posait le plus de problèmes. Ah, ouais, carrément. Quoi,
ah bah oui.
Ils vont changer la couleur orange ?
Non, ça, apparemment, il y a consensus.
Parce que c'est le seul problème avec le pneu dur. Hein.
À peu près, oui.
C'est un pneu dur, c'est un pneu médium qui n'a pas la bonne couleur.
Oui, c'est ça.
C'est ça le truc. Quand tu vois Massa, quand tu vois Grosjean qui s'arrête au bout de... Enfin, c'était quand même assez incroyable d'ailleurs. Moi, quand j'ai vu les arrêts sur le Grand Prix de Bahreïn, quand j'ai vu Massa, Grosjean, je me suis mis la main sur la tête, j'ai fait c'est pas possible. Romain, Felipe, vous savez pas gérer des pneus, c'est des pneus durs quand même. Vous voyez, ça devrait durer plus longtemps, quoi. Et c'est vrai que c'était incroyable, quoi. En plus, en qualification, c'était limite à se demander s'il y avait un écart de performance. Il y avait effectivement, je pense, un problème de conception trop radical. Globalement, c'est le choix de Pirelli. Mais là, pour le coup, ils se sont bien rendu compte que, malgré ce qu'ils disaient, et bon, malgré tout, sur insistance des écuries, qu'il y avait quand même une difficulté au niveau des écarts, quoi.
D'une écurie.
Bah, d'une écurie, mais enfin bon, il y avait bien des
surtout
problèmes.
Surtout que
parce
quand tu regardes, ils changent le pneu dur, bon, qui apparaîtra en Espagne, mais à Monaco et Canada, on va retrouver les super tendres, hein.
Ouais, ouais, non, mais après, il y a les super tendres au Canada.
Ouais. Espagne,
c'est plus surprenant qu'à Monaco.
Voilà, Espagne, ça sera donc.
Ouais, parce que Monaco.
Espagne,
ouais.
Ça sera médium et dur. À Monaco, super tendre et tendre. Ça va être chouette.
Oh, ouais.
Non, mais il y a rien à
voilà.
dire là-dessus.
Et Canada, super tendre et médium.
Ah d'accord.
Parce qu'à Monaco, les super tendres, c'est pas une nouveauté,
même,
je pense. Hein.
Même les Mercedes l'année dernière,
c'est trop chaud. C'est juste, c'est juste le problème. Mais sinon, c'est ni abrasif ni dur sur les pneus latéralement en tout cas.
Moi, je dis une petite pluie à Monaco.
Ah.
Comme ça, Toro Rosso pourra mettre les pneus encore c'est plus tôt.
Comme ça, deux Toro Rosso en première ligne. Le français qui cale, hein, logique. Une certaine continuité.
Et d'ailleurs, donc fort logiquement, même si Pirelli dit, voilà, nous on n'a pas changé, parce que la plupart des équipes finalement nous ont dit de pas changer, Red Bull continue à dire, ouais, c'est de la merde, faut changer les pneus. Et parce que Red Bull, bien évidemment, n'a pas du tout le melon et la grosse tête, et ils ont quand même sorti, oui, il faut qu'ils changent leurs pneus, vous comprenez, si on avait des pneus comme ceux de l'an dernier, on roulerait une demi-seconde plus vite.
Rien que pour pareil ça, faut pas qu'il change.
Déjà, d'une part, rien que pour ça, faut pas qu'il change, mais surtout, enfin, ils ont fait mine de dire on va changer quelque chose, ils vont rendre le pneu dur plus dur, mais si t'étais convaincu que t'étais dans ton bon droit de faire ton pneu et que tout allait bien, il fallait pas. Je trouve que c'est un mauvais signal à envoyer aux écuries qui se plaignent de pas aller dans leur sens si vraiment tu veux montrer que tu veux corriger un problème. S'il y a pas de problème, il y a rien à corriger. Il faut continuer comme c'était.
Finalement,
et continuer sur ta route.
Ils changent pas sur les pneus les plus tendres. C'est ça qui pose problème.
Oui, s'il y a un problème, il faut corriger le bon problème et pas faire corriger un problème pour dire on a corrigé un problème.
Oui. Dans l'absolu, il y a 2 ans, ils ont aussi introduit un nouveau pneu dur en Espagne. Donc,
oui, ils disent en plus que c'est
juste,
pas... ça n'a rien d'étonnant.
Un étalonnage qui se fait de manière naturelle et on en parle plus parce que les équipes se plaignent. Mais,
À ce moment-là, il faut qu'ils disent, voilà, c'est un truc qu'on avait prévu, ouais. Ou que, mais qui a rien à voir avec les plaintes sur les pneus tendres, parce que nous, on est content de nos pneus tendres. On a eu quelques réclamations de 1 ou 2 écuries, mais c'est rien de bien grave, ils vont s'y habituer, et ça les a pas gênés dans leur performance.
De toute façon, Red Bull, ils ont quand même gagné 2 courses
bah,
sur 4, donc c'est ceux qui se plaignent le plus, et finalement, c'est ceux qui s'en sortent le mieux aussi, donc,
Après à Bahreïn ils se sont peut-être bien sortis parce que les Lotus étaient mal qualifiés, que les Ferrari ont eu des problèmes quoi.
Oui, enfin quand tu vois la course de Vettel quand même.
Oui, c'est vrai.
Il aurait fait un podium au minimum quoi, je pense que.
Sinon on parle aussi Pirelli pour 2014, on le sait, ils attendent au plus vite la signature, on parle peut-être d'ici l'Espagne, voire peut-être pour le Grand Prix d'Espagne, et il y a déjà un constructeur de pneus qui serait sur les rangs, hein, c'est Hankook.
Alors déjà que d'aucuns se plaignent de la qualité des Pirelli, ils feraient pas des bons pneus de tracteur, etc.
Non, ils font pas des pneus d'aviation, s'il te plaît.
Mais en coup, c'est pas la première fois, je pense que déjà,
non,
pour l'appel d'offres de 2010, ils étaient là.
Non, mais tout à fait.
Ils sont en DTM maintenant, je pense. Enfin maintenant, ils sont en DTM.
Donc ils disent qu'ils avaient été en contact, mais qu'ils avaient pas été prêts, mais que là, maintenant, ils seraient prêts à faire des pneus pour la F1.
D'après, je pense que c'est un consultant de la BBC, ou alors c'est sur Sky. Pirelli aurait quasiment signé, donc...
C'est Martin Brundle qui a annoncé ça pendant la course, il me semble.
Il sera confirmé, mais...
Apparemment, c'est plus qu'une question de temps, surtout Pirelli, ils l'ont dit, hein. Ils veulent que ça soit signé tôt, pour pouvoir voir très tôt avec les équipes, quel pneu donner pour l'an prochain.
Ouais, non mais c'est ça.
Parce que sinon, on va vers une catastrophe qui est encore pire que cette année, hein, si jamais ça tarde. Mais ça pourrait être assez rapide, en fait.
Bon, ça inquiète pas Ferrari, hein.
Oui, puis il y aura suffisamment de changements, outre les pneus, pour se dire, continuons un peu avec Pirelli, quoi.
Ah oui, si en plus tu retardes les pneus.
Ah oui, c'est ça,
déjà,
ça fait une inconnue.
Déjà que les moteurs, ça va être juste.
Tu se traînais à ça jusqu'en décembre, ça.
Comme ça,
ils auront les essais en janvier.
Ça va être sympa, la saison.
Comment plonger dans l'inconnu à 2 mois du début de la saison?
Sinon, actu suivante, on va parler un peu des constructeurs en F1. On en a évoqué quelques-uns ces derniers jours. Le premier, c'est l'hypothèse Toyota. Alors, c'était une actu qui était sortie quand même le 1er avril. On n'y avait pas trop cru. Et puis, il y a une deuxième source par Giancarlo Minardi qui évoque peut-être des possibilités au travers de Lexus. Alors, ils disent même pour 2014, ça paraît quand même assez étonnant.
Ouais, non, mais c'est...
2014, j'y crois pas trop. Autant, à la limite, Honda, on pourrait se dire que, après tout, Gilles Simon a quand même bossé un peu chez Pure. Je sais pas jusqu'où ils ont été, mais il y aurait peut-être des moyens de faire un transfert du travail qui a déjà été fait. Mais pour Toyota, déjà Honda pour 2014, ça paraît un peu tôt, même si ça pourrait éventuellement encore être plausible sur papier. Mais Toyota, c'est vrai que...
Il faut vraiment que ça ait été fait en secret, quoi.
Oui, c'est ça, oui.
Ah oui, bah oui.
Alors que dans le même temps, ils poursuivent un programme en endurance.
Ah ouais, c'est ça, je vois pas trop...
Qu'ils opèrent leur soufflerie pour Ferrari. Alors, il y a des restrictions qui font que la soufflerie est pas occupée 24 heures sur 24, mais quand même, quoi.
Non, mais c'est ça, mais quand tu vois Rob White de Renault qui t'explique que les moteurs, enfin, ça va être juste pour qu'ils soient prêts en fin d'année 2013, début d'année 2014, ça te donne quand même la mesure de la tâche. Enfin, on parle des écuries Renault, Ferrari, Mercedes qui travaillent dessus depuis plusieurs années maintenant. T'aurais un programme parallèle de la même ampleur avec là aussi une préparation dans le même tempo pour Toyota, pour Honda, pour 2014. Personnellement, j'y crois pas, quoi. Encore un retour en 2015 comme ça avait été évoqué au moins pour Honda, ça paraît totalement plausible. Mais 2014, enfin c'est inatteignable. C'est ça. Enfin quand tu vois que Renault ils sont limite de se dire voyons, on aurait quand même bien aimé pouvoir tester en 2013, mais ça va pas être possible. Bon, tu te dis quand même gentiment que oui, il faut vraiment que Toyota ait quand même investi grandement dans ce chantier-là et avec un programme comme tu le dis de front qui mène avec l'endurance. Ça me paraît délicat, quoi. Puis bon, ça fait plutôt hypothèse de travail de se dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas passer par Lexus pour mettre en avant un moteur Toyota, mais j'y crois pas vraiment pour 2014. Pour Toyota, j'y crois même pas du tout, à vrai dire. J'y crois beaucoup plus pour Honda 2015, mais Toyota, pas un instant.
Il y a aussi ce qu'a dit Rob White récemment sur le fait que ni Honda ni Toyota n'étaient présents directement, en tout cas dans les réunions de travail. C'est-à-dire qu'ils ont pas les dernières informations, les dernières mises à jour du règlement. Ils peuvent pas influer changer sur les règles techniques là sont arrêtées, c'est un peu trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais les règles sportives sur les pénalités en cas de casse de tel ou tel élément sont pas encore arrêtées. Le nombre de blocs par saison, même si on sait que ça devrait se situer autour de 5 par pilote, bah voilà, ils peuvent pas peser sur ces discussions. Alors on a beau dire que Gilles Simon a travaillé à la FIA puis chez Pure et aurait été recruté par Honda récemment, n'en reste pas moins que à l'époque il défendait les intérêts de la FIA puis de Pure et jamais de Honda, et que dans les discussions récentes il n'était pas présent. Donc c'est un avantage certes peut-être, mais c'est pas un avantage aussi grand que ce que certains peuvent essayer de nous faire croire.
Sinon, autre constructeur, c'est Porsche, qui, lui, en fait, nous explique son choix de l'endurance plutôt que la F1. Ils l'ont envisagé, mais finalement, on le sait, Porsche reviendra l'an prochain au Mans et en endurance.
Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ça? J'ai pas...
Bah, globalement, c'est un peu le même argument que Audi, c'est de dire que Porsche va en endurance parce que, déjà, d'un point de vue de transfert des technologies, c'est plus évident... Ouais. De l'endurance vers le grand public que la F1 vers le grand public.
Mmh. Ouais, c'est l'argument numéro un.
C'est l'argument numéro un.
En avant.
Après, il y en a d'autres, hein. Ils ont été soulignés dans les commentaires. Ne serait-ce que d'un point de vue budget, c'est quand même pas du tout la même chose.
C'est sûr.
Entre autres.
Et ça, on n'est pas sûr. Et ça rejoint ce que disait aussi Renault sur le fait de la reconnaissance des constructeurs quand ils sont, en tout cas quand ils sont que motoristes.
Oui.
Le fait qu'on fasse moins de publicité, je trouve que la déclaration exacte à peu près c'était, on fait plus de publicité sur la politique et les pneus que sur le moteur et le châssis.
Oui, puis
la prépondérance de l'aéro.
C'est puis ça a été souligné, c'est-à-dire qu'on a surtout parlé du moteur Renault par exemple l'an dernier pour ses soucis plus que pour ses victoires.
Oui. Bon. Ouais, d'ailleurs, tu vois la stratégie de, alors volontaire certainement de Renault, peut-être de mettre un peu plus en avant le travail de Viry Châtillon sur le podium, là où t'as les médias qui sont braqués là dans l'interview d'après course avec Vettel qui a bien mis en avant Renault de manière bien ostensible pour bien montrer le travail, et ça rejoint un petit peu ce que disait, comme tu disais, Renault, quoi, le manque de reconnaissance. Donc là, il y a un vrai travail dans ce sens-là, quoi. On voit bien que c'est pas naturel de faire référence aux motoristes dans la période actuelle, surtout avec l'accaparement de l'attention avec les pneus.
Mais et puis dans chaque pub Renault récemment, je sais pas si vous avez vu, maintenant il y a une TF1 qui passe. Ils ont presque inventé le titre de champion du monde des moteurs.
Des moteurs.
Mais sinon, pour revenir sur Porsche, enfin, c'est tout à fait logique leur argumentation, et je la comprends tout à fait. En F1, aujourd'hui, la prépondérance, elle est plus sur l'aéro que sur les moteurs. Alors, les règles de 2014 ont peut-être changé les choses, mais...
Même si ça change les règles de l'aéro, tant que c'est de l'aéro, les applications dans le grand public, non.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Il y a aussi cet aspect-là, j'allais y venir, c'est que les applications des technologies qu'on a en F1, que ce soit l'aéro ou le KERS ou d'autres technologies, elles sont réservées très haut de gamme. Alors pour Porsche ça va encore, mais pour Audi qui fait du moyen haut de gamme, qui fait des bonnes voitures, c'est pas le problème. Sauf que le transfert de technologie est beaucoup moins évident pour Porsche que pour Audi.
Ça vous fait pas rêver un Twizy avec équipé d'un KERS de Formule 1?
Ah, on va pas en parler.
Non, on va pas en parler. On peut les bouquer.
La voiture à pédale.
Non, mais c'est intéressant en termes de transfert de technologie. C'est vrai que ça, c'est pas le concept car qui fait le plus rêver. Ça,
non,
on est d'accord.
D'une, ça fait pas rêver, ça fait kéké. Ils auraient mis sans aileron, ça faisait moins kéké, je crois. Mais sur une Mégane ou une Alpine, ça se comprend davantage.
Oui.
Voilà, même après sur un Twizy, c'est peut-être moins intéressant, surtout quand tu joues sur la corde du alors oui, ça le fait accélérer aussi vite qu'une Mégane, alors que le but du KERS, le but du KERS dans l'utilisation avec un moteur électrique, ce serait plutôt d'augmenter l'autonomie d'un moteur électrique que d'augmenter la puissance, quoi. De faire en sorte que le moteur électrique se repose pendant que utilise pas la batterie pendant que le KERS est en action.
D'ailleurs, vu qu'on parle de moteur électrique, il faut quand même que je cite un article que j'ai lu sur gizmodo.fr, attention, qui s'est mis à parler de la Formule E, hein. Vous vous souvenez, quand j'avais fait le quiz, j'avais dit qu'il manquait de dates. hein, pour le, ils avaient eu 8 dates pour leur championnat, ils ont trouvé les deux dernières, qui seront à Los Angeles et Miami. Et donc, l'article nous parle donc, bon, bah, les véhicules dont le look est logiquement calqué sur celui de la Formule 1. Bah oui, c'est des monoplaces, hein, forcément. donc, ils seront alimentés par une batterie à lithium et tout ça. Donc, l'article compare, donc, en disant que c'est forcément, bon, bah, 220 km/h, c'est loin des 350 km/h atteints par la F1. Et il rajoute, sur le plan écologique, l'ajout de turbocompresseurs permettront naturellement de réduire les émissions initialement diffusées par une voiture F1 qui tourne, elle, à l'essence. C'est textuellement la phrase qui est marquée. Ouais, des turbocompresseurs sur un moteur électrique.
Je propose une minute de silence pour le journaliste qui a écrit ça.
C'est là qu'on ouvre notre rubrique, la F1 pour les nuls.
J'ai quand même regardé, parce que c'était une traduction d'un article anglais, et dans l'article anglais, il fait bien la distinction entre la Formule E, et justement, en comparaison, parle de la F1, qui va rajouter des turbocompresseurs pour réduire.
D'accord.
Voilà, l'article anglais fait bien la distinction. Quand il parle des turbos, évidemment, c'est les turbos qu'on va voir en Formule 1. Et là, je sais pas comment il a fait le... À la traduction, il a fait une compression de paragraphe.
Ce qu'il a pas compris.
Il va laisser par Google, en fait. Quoi.
Donc oui, des turbocompresseurs sur un moteur électrique.
Ça fait quel bruit déjà, un moteur électrique?
Oh, c'est dingue.
Ah non, mais attends,
j'avais pas entendu comme ça.
Récupérer les gaz d'échappement d'un moteur électrique, c'est quand même une technologie de malade.
Repousser les limites.
Donc voilà, j'avais vu ça, quand on a parlé de voiture électrique, fallait que je vous le fasse partager.
Merci.
Allez, on va passer à une vraie troisième actu. C'est...
c'est sympa pour les deux premières.
Non, on les salue. Non, je parlais par rapport à celle de Gizmodo. Ah. Oui, oui. C'est, on va parler monnaie, hein, avec ce cher Bernie qui nous explique que non, il y a pas d'argent pour la 11e équipe. Et puis un accord Concorde pour une 11e équipe, ça sert pas à grand chose.
Les accords Concorde, ça se prend grand chose.
Oui, c'est voilà, Marussia n'a pas signé les accords Concorde, enfin n'a pas signé. C'est qu'en fait, on leur a même pas proposé les accords Concorde. Sous quel prétexte? Ben, ils sont 11e, ça sert à rien. Oui. Oui.
Ouais, non mais enfin, c'est ça quoi. Il y a un véritable changement de philosophie qui est très très lisible sur la manière dont se font les négociations actuellement. On avait l'histoire des accords Concorde qui était quand même une histoire de constructeurs qui s'alliaient plus ou moins. Alors c'était surtout les constructeurs anglais, mais après ça s'est étendu. Mais les constructeurs qui s'alliaient pour justement lutter contre le pouvoir des instances sportives. Là, on voit que ça a totalement éclaté, qu'on en revient à des négociations individuelles.
Oui, voilà,
des négociations individuelles, voilà, équipe par équipe, qui favorisent forcément les équipes de pointe, qui favorisent non plus la masse, mais qui favorisent clairement les équipes qui ont un prestige, Ferrari, McLaren, Red Bull et Mercedes notamment, Lotus bien sûr, dans une moindre mesure les équipes de milieu de peloton, et bah, bien sûr les équipes de fond de grille qui elles subissent totalement ces accords parce que sur un plan purement commercial, la vérité est crue, c'est qu'on n'en a pas besoin de ces équipes-là. Donc une négociation individuelle, on peut très bien choisir. Et là, le problème, c'est que le pouvoir revient dans les mains des instances, et notamment de la FOM, de Bernie Ecclestone, qui est totalement en position de force. S'il veut pas négocier, il négocie pas. Lui, ça le dérange pas. De toute façon, lui, il a clairement dit, 10 équipes, ça me suffirait.
Là, oui.
Bon, bah, à partir de là, 10 équipes, ça lui suffit. Marussia, qui est 3 fois 11e sur les 3 dernières saisons, ne rentre pas dans ce schéma-là. Mais le plus problématique, c'est qu'à la limite, en dehors de ces cas-là, on pourra estimer normal quand même de rémunérer, en tout cas de payer, de doter les équipes qui terminent le championnat, même si elles ont pas de points. Alors c'est clair que c'est un petit pécule, parce que ça représente, je crois, 8 millions d'euros. Budget comme celui de Marussia, c'est ce que disait Simon, c'est énorme parce qu'il n'y a pas grand chose. Et tu leur enlèves cette ressource-là, c'est une façon de les faire mourir. C'est une façon, je trouve, un petit peu malhonnête de les faire mourir. D'autant que si la F1 a quand même progressé, si la F1 a longtemps fonctionné, c'est aussi grâce à ces petites écuries, non pas forcément par leur performance, mais par le fait qu'elle ramenait des jeunes pilotes et des pilotes qui étaient dotés de moyens financiers pour les faire progresser. Moi, je veux dire, la philosophie d'Ecclestone, elle est claire, c'est pas de sa part qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'on réfléchit pas à un système qui permettrait de maintenir à flot ces écuries-là. Parce que là, Marussia, alors on parle de Marussia, ça pourrait très bien ne pas être Marussia d'ailleurs, qui est 11e cette saison.
Logiquement,
hein, mais eux, ils se retrouvent exclus de ce système.
Et
moi, je trouve ça un petit peu dommage dans cette philosophie.
Qu'est-ce qui se passe si par exemple Marussia finit 10e cette année? Parce que c'est imaginable cette année qu'on voit le début de saison.
Est-ce que Bernie serait pas là forcé de négocier justement avec Marussia un accord?
Parce que voilà. s'ils finissent dixième, ben on leur donne l'argent, mais on leur donne pas parce qu'il y a pas d'accord financier. Ah oui, mais ils sont dixième, techniquement ils y ont droit.
C'est ça la problématique et un petit peu ce qui est pas clair dans ce truc là, c'est que Bernie parle de négociation individuelle, donc on peut y faire ce qu'il veut. Après, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on parle de Marussia, mais moi ça me paraît un petit peu prématuré de parler de Marussia, parce que dans l'absolu, Marussia peut très bien ne pas finir onzième, quoi, comme tu le dis. Donc là, c'est vrai que ça tourne autour de Marussia, forcément, puisque c'est plus concerné a priori. Quoi.
C'est-à-dire, imaginez, voilà, ça aurait pu être Caterham cette année, quoi.
Mais c'est clair, ça serait marrant de voir Marussia 10e, Caterham 11e. Là, on serait dans une situation un peu délicate, parce que des deux, visiblement, Bernie préfère garder Caterham à choisir.
Et puis c'est toujours
Là, il se retrouverait dans une situation sportive délicate.
Dire qu'il n'y a pas 8 millions pour Marussia, faut pas déconner, je veux dire, les 8 millions, t'enlèves 1 million sur les parts des 8 autres, ils sont vite trouvés quand même, hein, vu l'argent qui est généré par la Formule 1. Ça me gêne de dire ça, surtout en ce moment, mais ils sont pas à 8 millions près, quoi, sur la FOM, hein, j'entends bien la FOM. Hein.
Surtout quand on sait qu'il y a au moins 100 millions réservés à Ferrari, quoi, comme on a dit dans il y a 2 ou 3 mags, on marche sur la tête, quoi.
Ouais, non, mais c'est
ouais, et puis les 8 millions, ils iront quand même pas ailleurs, enfin, ils iront pas dans une autre équipe, dans d'autres équipes, donc c'est 8 millions qui vont rester dans les poches de la FOM, voire de Bernie lui-même.
Que Bernie va pouvoir partager dans un prochain divorce.
Sans doute, oui.
Ou acheter des vêtements à sa fille.
Ouais, ça serait bien de l'habiller. Un peu.
Mais non, voilà. De toute façon, Bernie n'a jamais voulu des 3 nouvelles équipes. Mm. Il a toujours été très clair là-dessus. Mm. 10, ça lui convient parfaitement. Donc bah, forcément, il faudra qu'il en garde une. À l'heure actuelle, bah, là, le dernier, le petit canard, c'est Marussia, quoi.
Le seul bon côté pour Marussia, c'est que comme il n'y a pas d'accord, ils ne sont pas engagés, puisque techniquement, quand tu signes l'accord Concorde, tu t'engages à voir ton équipe le temps de l'accord. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, Marussia peut partir, on leur réclamera rien. C'est le seul bon côté, entre guillemets.
C'est la même clause qu'à Ferrari, sauf que Ferrari, contre cette clause, ils peuvent changer le règlement technique.
Oui.
Très bien de donner la même à Marussia, on rigolerait. Non, mais je trouve que c'est dommage, c'est pas très respectueux de déjà des petites écuries, et puis même de l'histoire de la discipline, de la manière dont elle s'est construite, et je trouve ça un peu dommage. Bon, alors c'est clair qu'on a une époque de négociation négociation économique en tout genre, mais c'est dommage de cette manière-là, en tout cas. Peut-être qu'il y a d'autres moyens des écuries qui sont sportivement pas au niveau des autres, parce qu'elles ont pas les mêmes moyens, et puis bah voilà, parce que tout simplement elles ont pas le bagage pour le faire, et si en plus on leur coupe les vivres, ça me paraît un petit peu.
Puis elles ont que 4 ans d'expérience aussi. Hein.
Ouais, non, mais c'est ça.
On pourrait quand même aussi dire qu'il y a aussi une petite part des équipes, parce que auparavant il y avait la FOTA, ils étaient tous unis, donc ils pouvaient dire on négocie pour tout le monde, chacun aura sa part. Le fait que c'est tourné en eau de boudin, c'est une conséquence aussi malheureuse de ça.
Mais ça fait un peu comme en foot, dans certains championnats, alors je sais plus exactement lesquels, mais je pense qu'il y a le championnat italien, le championnat espagnol, c'est des négociations individuelles des droits télé.
C'est en Espagne. D'ailleurs, ils veulent le remettre en cause.
Bah oui, parce que forcément, dans ce cas-là, les diffuseurs ont absolument aucun intérêt à négocier des sommes faramineuses pour diffuser des petits clubs, alors qu'il te suffit de diffuser avec le gros club, qui lui, de toute façon, a un intérêt à être diffusé, et toi, t'as un intérêt à diffuser, parce que c'est à ce moment-là que tu feras tes plus gros scores. Ça, c'est typiquement les systèmes qui n'aident pas les petits...
En Espagne, donc, où le système est comme ça, donc il y a 2 clubs, on sait lesquels, hein, donc qui ont la moitié du gâteau.
Oui.
Ouais, non mais voilà, enfin c'est. Alors après, on peut dire que ce système amène une compétitivité de ces clubs-là, c'est certain, mais le problème c'est que ça se fait mais c'est pas la même problématique que la Formule 1, parce que la Formule 1, t'as un championnat, je veux dire, personne va, enfin t'as pas de confrontation en DTM Formule 1.
Tu dis que Marussia peut faire que le Grand Prix de Russie. Non mais c'est le système Bernie qui a gagné, divisé pour mieux régner.
Ah, clairement. Oui. Clairement.
Il a eu ce qu'il a voulu, finalement.
Ouais. Il a complètement le pouvoir, quoi.
C'est ce qu'on disait une des dernières fois encore, quoi. C'est la FIA qui a renoncé, qui se tait et qui regarde, quoi.
Ouais, la FIA, on l'entend pas, quoi. C'est hallucinant. J'ai envie de dire, on l'entend quasiment sur rien, quoi.
Jean-Todd a fait un tour en Afrique.
Ah ouais, ou pour dire qu'ils vont garder leur fournisseur de télémétrie.
Oui,
tu sais,
oui.
Qui
d'ailleurs,
pas,
il faut corriger ce qu'on a dit, parce que j'ai dit que c'était McLaren. Alors, mea culpa, non. McLaren s'occupe de
c'est le boîtier électronique. McLaren.
Les électroniques pour les écuries et pas pour la FIA. Donc, mea culpa.
C'est quoi déjà la société qu'ils ont cette année?
Riedel, je crois. Riedel. Ouais. Ça fait un peu Lidl, quoi. C'est ça qui fait un peu peur.
Et c'est plus le même fournisseur que l'an dernier.
Non.
C'est...
Justement, apparemment, à un moment, enfin, ce qui circulait, c'est qu'ils allaient peut-être revenir à celui de l'an dernier, puisque ça marchait. Mais non, ils ont gardé donc celui qui a commencé là les quatre premiers.
Ça, au niveau de la Formule 1, c'est comme hallucinant d'arriver avec des systèmes qui marchent pas. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Tu sais, fait depuis Melbourne que ça marche pas. Ils s'en sont pas rendu compte avant. Enfin,
c'est ce que je disais dans le répondeur à l'époque, c'est que ils ont pas pu tester le système avant parce qu'il y a pas eu de course avant et que pendant les essais la FIA est là mais pas avec toutes ces infrastructures qu'elle a sur les grands prix. Donc il y a pas de panneaux lumineux, il y a rien pendant les essais privés. Donc, du coup, ils ont pu se rendre compte du problème qu'à Melbourne. Ça n'explique pas le fait qu'ils aient pas eu le temps de le résoudre en un mois et demi, quoi.
Et bien justement, puisqu'on parle de la FIA, on va parler d'un autre secteur sur lequel, pour l'instant, on n'a pas beaucoup entendu la FIA, c'est les sanctions. Puisque c'est vrai que les commissaires de la FIA, depuis le début de saison, sont quand même relativement plus cléments cette saison par rapport aux années passées.
Ouais, alors ça, je suis un peu sceptique là devant ça.
Bah, c'est vrai qu'en même temps, quand tu regardes ce qui se passe en course, il y a beaucoup de choses où notamment ils disent oui, ce sera vu après la course, et finalement, ça ne débouche sur rien. Quasiment, à part là les déclassements qu'il y a eu pour Bahreïn, il n'y a pas eu grand-chose de la part de la FIA.
Est-ce qu'il n'y a pas eu moins d'enquêtes, justement est-ce que c'est pas juste qu'il y a eu moins de faits litigieux à étudier qui font qu'il y a moins de problèmes? Il y a le fait aussi que le peloton s'est moins resserré que l'année dernière en début de saison, parce que globalement, on a 4-5 écuries devant, et après, t'as Sauber, Williams, qui sont un peu plus en retrait, donc il y a moins de bagarres qui font qu'il y a moins de batailles en piste, et donc moins de problèmes. Moi, je pense que c'est plus ça qui explique... cette clémence entre guillemets de la FIA plutôt que alors après ça sort d'Auto Motor und Sport, je crois, qui dit que il y aurait eu une réunion avant la saison avec des pilotes dont Vettel, avec les commissaires, etc., et que c'est là que ça aurait été décidé. S'ils ont l'info, d'accord, mais moi je suis franchement pas convaincu.
Ouais, parce que si tu regardes, il y a quand même en Malaisie Raikkonen à 3 places de pénalité sur la grille pour Arjen Rosberg. Une pénalité qui se justifie parce que c'est dans le règlement, mais bon, ils auraient pu dire on la passe sous silence.
Ouais, mais c'est plutôt sur les luttes en course, non?
Oui.
Il y a eu des au niveau des luttes en course.
Bah, c'est vrai que par exemple le cas de Perez.
Ouais, Perez s'en sort de
voilà,
fort, mais
oui.
Weber a été pénalisé.
Même Rosberg, il a beaucoup fait de waving.
Mais je pense qu'il y a un truc aussi qui est très révélateur de notre façon de voir la F1, c'est que je pense qu'on projette beaucoup projettent leur propre vision des choses. C'est-à-dire, par exemple, sur le Grand Prix de Bahreïn, moi j'étais ahuri sur Twitter de constater que Perez n'avait absolument pas le droit de se défendre et d'attaquer. Enfin, je veux dire, personnellement. Je trouvais pas ça incorrect de la part de Perez. Moi je pense que à ce niveau-là, c'est peut-être plutôt les attentes de ceux qui regardent la F1 qui se mettent à un certain niveau en s'appuyant peut-être sur ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, c'est vrai que contact, la moindre gêne était pratiquement sanctionnée. On est quand même pas sur des luttes qui sont à part le cas peut-être Weber-Rosberg là à Bahreïn, qui est quand même un peu limite, parce que heureusement, il se récupère, mais enfin, ça peut aller quand même très loin, ce contact. Mais moi, j'ai pas trouvé que les duels étaient particulièrement virulents et méritaient des sanctions. Pour le cas Perez, le cas Raikkonen-Perez en Chine, moi, je pense que là, on en a fait tout un foin. Il y a aucune décision qui a été prise parce qu'il y avait aucune décision à prendre. À mon avis, c'est surtout ça, c'est que les gens projettent la sévérité supposée des sanctions de la FIA, et puis finalement il se passe rien, alors les gens disent c'est plus clément. À mon avis, c'est surtout qu'il y avait pas d'objet, puis surtout en plus que quand tu prends d'autres cas comme par exemple Perez Button, bon bah là entre équipiers en général c'est jamais sanctionné, donc bon, à ce niveau là oui. je sais pas, à mon avis c'est une déformation de la vision
Perez
des
Button,
choses.
Perez Button, c'était peut-être plus des critiques envers Perez d'avoir été trop agressif envers son coéquipier plutôt que d'avoir fait quelque chose de répréhensible.
Après, c'est de la tambouille interne à McLaren. Oui.
Je pense que dans le Button-Perez, la seule erreur de Perez, c'est d'avoir été touché Button avec sa voiture. Ouais. Ça, entre équipés, même en temps normal, tu peux pas le faire. C'est un risque, c'est la preuve que tu vas un peu trop loin. Et d'autant plus avec son équipier, c'est le genre d'image que les équipes aiment pas voir du tout. Maintenant, après, il était plus rapide, il a essayé d'attaquer, et il a raison. C'est exactement le... Critiquer Perez, c'est le discours inverse de dire, Vettel a eu, par rapport à Vettel en Malaisie, quoi. C'est... On critique Vettel parce qu'il attaque Weber, on critique Rosberg parce qu'il attaque pas Hamilton. On veut des pilotes qui se battent même entre équipiers, et quand ils le font, bah, on viendrait dire, ah ouais, mais il y a des limites, quoi. La seule erreur de Perez, c'est d'avoir été touché Button, quoi. Ça aurait été une autre voiture, ça aurait été une erreur pareille, donc.
Moi, pour moi, les deux actions les plus critiquables depuis le début de saison, bon, il y a celle le problème de Gutiérrez qui est, d'ailleurs, c'est bizarre, il a pris 5 places, alors que d'habitude, pour un freinage raté, qui élimine un concurrent, on en prend 10, quoi, comme Schumacher a pu le faire avec Vergne et tout,
oui,
ça, quoi.
Déjà, oui.
Moi, les deux actions, comme je disais, c'est Weber qui m'énerve à chaque fois qu'il tasse de manière trop prononcée les gens contre le mur des stands. C'est extrêmement dangereux. S'il y a quelqu'un qui sort au même endroit, un jour, il va y avoir un souci si personne ne l'avertit par rapport à ça, et je crois que ça n'a jamais été fait, quoi. Il y a que Schumacher dans une situation pareille, dans le fameux problème avec Barrichello en 2010 en Hongrie, qui avait été gravement pénalisé, enfin gravement, une pénalité de 10 places sur la grille. Mais à part ça, il n'y a jamais eu de cas où on a remis en place un pilote par rapport à ça, et je pense que ce serait très important de le faire, parce qu'un jour il va y avoir un problème si une voiture sort des stands au même moment. Très dangereux, je trouve.
Oui, d'ailleurs, Weber, à titre personnel, ça engage que moi, mais je pense qu'il bénéficie d'une immunité médiatique assez incroyable, quoi. C'est quand même très très rugueux dans, ouais, son pilotage.
Et pas seulement par rapport au pilotage.
Mais c'est pas nouveau, hein. Ça
en fait partie. Oui. En fait partie, mais je te dis, la manœuvre sur Rosberg, à mon sens, est incroyable, quoi. Enfin, heureusement que Rosberg se récupère, parce que sinon, ça finit mal. Mais à ce titre-là, oui, ça serait bien que Weber soit remis en place. Mais comme il fait figure de, c'est terrible, figure de sage, il fait figure de victime, en plus. Ça ajoute en plus au côté un petit peu compassionnel de ça. Donc il y a ce côté Weber, il est protégé. Ça serait Grosjean qui fait ça. Grosjean, il est excommunié. Weber, lui, il a ce droit-là. Donc il en profite, d'ailleurs, il en joue. Mais c'est dommage, parce que effectivement, comme dit Gus, un jour ça va très mal se finir, cette façon de défendre. Et là, il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Et ce jour-là, je pense qu'on pourra ramasser les morceaux, quoi.
Sinon, vous avez peut-être vu la rumeur, parce qu'on est un peu sur les sanctions. Il se pourrait, alors, c'est de la rumeur, qu'il y ait des discussions sur l'arrivée l'an prochain d'une nouvelle sanction, qui serait, on sanctionnerait un pilote en touchant à la puissance du turbo. Alors, on sait pas dans quelle proportion de pénalisation, que ce soit en termes de réduction de puissance, en nombre de tours, est-ce que ça serait sur un nombre de secondes. Est-ce que vous pensez, alors, je pense que si on en parle, c'est que techniquement ça doit être possible, mais est-ce que c'est réaliste d'avoir ce genre de sanction?
Je trouve ça totalement stupide. Personnellement, si tu veux ralentir un pilote, tu le fais repasser par la voie des stands, tu lui infliges un stop and go, ou ce genre de choses, mais tu le ralentis pas en piste, enfin c'est complètement débile.
Ah bah pour créer des chicanes mobiles,
c'est ridicule. Tu vas lui couper d'un coup, enfin, je vois vraiment pas... Non, tu le fais passer par les stands,
oui,
et puis
voilà.
C'est bon. Enfin,
et ça fait des développements en plus sur le boîtier électronique, et c'est potentiellement... Si un problème de boîtier électronique, c'est potentiellement source de problème, ça peut retomber sur McLaren encore. Moi, je suis pas favorable à ça.
Ouais, s'ils standardisent et qu'ils confient ça à la même société qui gère la télémétrie, on est pas sauvé. Hein.
Oui.
Non, puis enfin, pourquoi toujours essayer d'innover dans des domaines où, bah voilà, les pénalités existent, infliger ce qui existe, et voilà. En même temps, quand tu vois le nombre de pénalités, enfin de sanctions sur lesquelles ils réfléchissent après course, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser de l'argent sur un truc qu'on n'utilisera peut-être pas, quoi?
Oui.
Interdit d'utiliser le DRS, un truc comme ça.
Ah, ça peut être utile pour certains.
Ouais, bah à la limite, pourquoi pas? Pendant deux tours, tu n'utilises pas le DRS. Pourquoi pas? Mais enfin, encore que... Mais...
Bon, de toute façon, déjà, le DRS, t'as quand même pas l'occasion toujours d'utiliser. Quoi.
Oui, la pénalité de pas l'utiliser, c'est pour les gens qui sont suivis, justement. Elle est déjà, en quelque sorte, elle est déjà en place, quoi. Faut pas que tu sois à moins d'une seconde devant quelqu'un, sinon c'est ça ta pénalité, quoi.
Ouais, moi je trouve ça, enfin c'est un autre débat là, je bifurque et tout, mais le DRS, je verrais bien une utilisation, un nombre d'utilisations, je sais pas, un quart de, un quart, ouais, un quart des, je sais pas, un quart des tours, un quart des tours de la course, tu as le droit d'utiliser dans les zones DRS, que tu sois défenseur ou attaquant. Enfin je sais pas, moi je trouve que ça ajouterait du piment stratégique. Ouais. Là, ça a vraiment aucun intérêt. Enfin je veux dire, en plus, avec cette méthode-là, les deux pourraient, enfin celui qui est attaqué pourrait se défendre, et puis en plus tu pourrais choisir à quel moment tu utilises. Enfin moi je trouverais ça beaucoup plus intéressant. Alors ça, c'est clair que là c'est pareil. Faudrait que les mesures, enfin la vérification des commissaires de course, enfin du contrôle de la course puisse s'opérer, mais je trouverais ça beaucoup plus intéressant parce que là, clairement, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est vrai que les pneus focalisent l'attention, mais c'est quand même aussi un débat qui avait été soulevé après Bahreïn, c'est que bon alors c'est pas nouveau, hein, c'est clair, mais un lot de dépassements qui sont vraiment pour le coup, enfin totalement, c'est complètement inutile, enfin t'as aucune chance de toute façon de résister parce que tu subis le DRS de plein fouet. Je sais pas moi, soit enfin deux possibilités, soit on réduit la taille des zones DRS parce qu'au bout d'un moment, est-ce que le DRS ça doit te servir à ne plus rien faire, il se passe, c'est clair il y a beaucoup de dépassements, mais les plus beaux dépassements étaient les dépassements hors zone, zone DRS. En zone DRS, tu peux pas résister, il y a aucun intérêt. Enfin je veux dire à mon avis sur ce plan-là, faudrait les former parce qu'on a déjà d'autres paramètres qui font que t'as la possibilité entre les voitures. Alors quand les écarts sont un peu plus restreints, dès que t'as le DRS, enfin c'est fini quoi. Il y a plus aucune lutte, il y a plus aucun intérêt à lutter. Je trouve que pour le coup, on pourrait, c'est clair, réfléchir à un mode un peu plus d'utilisation du DRS qui soit plus lié à une utilisation de stratégique plutôt qu'à une utilisation factuelle.
On pourrait l'autoriser aux défenseurs.
Tu donnes 15
voilà,
fois.
Non mais même par rapport au temps, puisque il faut que la voiture qui est derrière soit moins d'une seconde. On pourrait dire d'accord, mais la voiture qui est devant a aussi le droit d'utiliser le DRS.
Alors là, t'as
fais ça à chaque fois qu'il y a une seconde d'écart. Le problème, c'est que ça sert à rien. Quoi.
Autant pas le mettre.
Oui.
Ça donnera une chance à Ferrari de gagner un Grand Prix. Grand Prix de plus, hein, bien sûr.
Oui, oh là là. Attention.
Ne nous fâchons pas avec les tifosi, je vais me fâcher avec moi-même après.
Allez, cinquième actu. C'est une actu transfert, une actu rumeur. Raikkonen pourrait-il aller chez Red Bull? Mais en même temps, Lotus, il voudrait bien garder Raikkonen. Mais en même temps, il lorgnerait bien chez Vettel, parce qu'après tout, pourquoi pas?
Ouais, hein, ça c'est la réponse du berger à la bergère, Vettel. Hein. Et
Berger à la
Berger. Oui aussi.
N'oublie pas que t'as un ta gueule.
Vettel lui a dit que ça ne le dérangerait pas.
Ils disent tout ça.
Ouais, bah ouais, tout ça. Façon, ouais. Parce que Vettel il sait qu'il va avoir un nouvel équipier l'an prochain. Et de toute façon, Raikkonen fait partie des hommes forts du championnat en tout cas en ce début de saison, donc c'est logique.
Ah puis c'est le genre de rumeur qui doit faire vachement plaisir à Vernie Ricciardo.
Ouais, de toute façon, Vergne, si t'as lu les dernières déclarations de Marco, il doit encore apprécier aussi, quoi.
Ouais.
Vergne, il voit la porte de sortie tout doucement se rapprocher, comme il est là, et enfin, la saison est encore longue, mais...
La malédiction du français chez Toro Rosso,
ouais. Ah, c'est tenace.
Ouais. Ah, mais Vergne, il a un vrai problème en qualification, hein. C'est là qu'il perd des points par rapport à Ricciardo. Après, il a eu des soucis aussi en course.
Il faudrait qu'il passe ses qualifs sur le simulateur. Parce que ça fait quand même des années qu'on nous dit qu'il est brillant dans le simulateur.
Non mais on nous vend un gros Jean qui serait faible psychologiquement et qui aurait des failles mentalement. Mais au final, quand ça compte en qualif, en Q2 ou en Q1 même parfois, Vergne n'est pas là. Hein. Est-ce que c'est pas là le problème de Vergne? Il y a un moment où il faut qu'il performe, et c'est ce moment-là où il performe pas, justement.
Ah, clairement, oui, c'est les qualifs qui posent problème.
Qu'à l'inverse, et là, pour plus, moi, Grosjean à Bahreïn a été très bon. On l'a vu dans beaucoup de duels, il a pas fait de faute. Il aurait eu l'occasion de se foutre dans le décor plusieurs fois.
Non, mais
il était très très bon tout le week-end.
C'est clair, c'est malheureux. Grosjean, ce qui est bien malheureux, c'est qu'il a focalisé au pire moment de la saison la responsabilité d'un énorme accident qui a impliqué deux pilotes très populaires, Alonso et Hamilton.
Avec une sanction qui était disproportionnée, encore
une sanction,
fois.
Exactement, avec une sanction disproportionnée qui en plus de sanctionner, enfin, en plus, c'était pas du tout dans la continuité de ce qui s'était passé. Enfin, je rappelle qu'il avait subi aucune sanction et n'avait même pas été inquiété de la saison une seule fois sportive, enfin, une sanction de comportement, une sanctions sportives et donc ça a focalisé sur lui, je sais pas, une rancœur que tu perçois encore aujourd'hui, enfin une performance de Grosjean aujourd'hui c'est 25% de moquerie quoi, enfin c'est assez terrible et en plus de ça, bon, la gestion du cas Grosjean après par Lotus a été totalement désastreuse. Je veux dire, à un moment, si tu sais que tu vas garder ton pilote, c'est pas la peine de le faire mariner jusqu'au mois de décembre quoi, pour lui dire une fois qu'il est bien au courbouillon quoi, parce que là, si tu veux ruiner la confiance d'un mec qui déjà par ce qui s'est passé durant la saison était pas forcément au top, bah tu fais ça quoi, tu lui fais mariner son baquet quoi. Bon, il y a ça, Grosjean est un excellent pilote, enfin c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup d'observateurs qui disent que c'est un mec qui a sans doute le potentiel pour être champion du monde, et qui malheureusement a subi une cabale, franchement une cabale médiatique que personnellement j'ai pas bien compris, quoi, parce que je veux dire un mec comme, enfin même Maldonado qui était quand même beaucoup pourtant bien plus impliqué dans un certain nombre de d'accidents, avec autrement plus de violence, au moins dans les dans le comportement, a pas subi autant, quoi. Je veux dire, à un moment, la course de Grosjean à Bahreïn, bon, alors, excepté la qualification qui s'est mal passée, mais finalement, une qualification qui se passe mal, où tu pars 11e, enfin, comme, c'est, entre guillemets, comme disait Dino, c'est la petite pole, quoi. Après, derrière, il fait une course incroyable. Enfin, personnellement, dans tous ses duels, il a été autoritaire. Dans le duel avec Pérez, qui était quand même un duel très, très risqué, c'est quand même lui qui évite l'accrochage, par un très beau coup de volant. Enfin, voilà, c'est Grosjean comme il est, quoi. Après, forcément, on est face à un pilote qui a besoin de retrouver ces courses-là. Et pour revenir sur Vergne, pour le coup, moi, j'avoue, je comprends pas bien. Il a pas un coéquipier, lui, qui est quand même d'un niveau incroyable. Enfin, moi, je les trouve pas terribles, les deux, personnellement. J'avais vraiment un bon espoir, je les trouvais très bons, mais je sais pas, je les trouve pas excellents, les deux pilotes. Je pense que si Red Bull
pas constant,
avait l'occasion...
En fait.
Parce que Ricciardo a fait une bonne chose, quand même. En
ouais, mais c'est ça. Mais Ricciardo, le problème, c'est que
c'est
tu sais
coup
pas...
D'éclat, c'est par coup
d'éclat. Voilà, tu sais pas où le situer, parce qu'il est jamais vraiment... t'as le mec, il se qualifie en Q1, en course, il fait absolument rien. En Q3, pardon. En course, il fait absolument rien. Enfin, il y a une espèce d'inconstance, et en plus tu peux pas tirer un bilan, enfin l'année dernière tu vois que les pilotes ils finissent pratiquement à égalité de points, tu ressors avec une impression de je sais pas, c'est complètement mitigé. Moi je sais pas, je suis Red Bull, l'année prochaine j'ai un baquet de libre, c'est pas un de ces deux mecs que je le confie, hein. Que si je peux essayer de débaucher Raikkonen, parce que comme dit Boullier, ils sont bien conscients que de toute façon, quoi qu'il fasse, il pourra pas garder Raikkonen contre sa volonté. Ils disent de toute façon, si une porte est ouverte chez Red Bull et qu'en plus on l'accueille à bras ouverts, je vois pas pourquoi il n'irait pas. S'il voit qu'il a une voiture capable de jouer la gagne, parce que bon, on a beau me dire qu'il est pas revenu pour être champion du monde, bon, à un moment quand tu cours en F1, effectivement, il a pas besoin d'argent. Bon, il devrait être bien content de pouvoir jouer le titre. Hein,
là,
je sais pas.
Oui.
De toute façon, Raikkonen, il est là pour gagner, et quand tu gagnes, tu remportes des championnats. Donc.
Non, mais c'est ça. Enfin.
Et malgré les belles performances de Lotus, on peut pas dire que Red Bull soit un moins bon choix que Lotus, quoi. Parce que Red Bull a les capacités financières pour développer une voiture sur une saison et pour travailler en parallèle sur 2014, alors que Lotus, ça va être plus difficile.
Ouais, mais
impossible.
L'avantage de Lotus vis-à-vis de Raikkonen, c'est qu'il lui fout une paire royale en dehors de la voiture, quoi. Mmh. En gros, il fait quasiment ce qu'il veut. Une fois qu'il est dans la bagnole, il conduit, c'est tout. Que chez Red Bull, il aura peut-être plus un environnement un peu plus corporate, où il devra faire plus des trucs qu'il apprécie moins.
Bah, il pourra faire du motoneige avec Red Bull.
Ouais, ouais. Bah, voilà, après, sur le plan sportif.
Du motocross,
c'est un très bon choix, mais. Et pour revenir sur les pilotes Toro Rosso, leur problème à tous les deux, c'est qu'il n'y en a aucun qui domine véritablement l'autre. Or, s'ils veulent passer chez Red Bull, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est atomiser leur équipier. Et ils le font, aucun des deux. C'est un peu le même problème que Buemi et Alguersuari avaient, c'est qu'ils n'étaient pas forcément mauvais, mais ils n'étaient pas exceptionnels non plus. C'est des bons pilotes, point barre, pas suffisant pour passer à la phase supérieure.
Buemi et Alguersuari donnaient une meilleure impression quand même. Alors après, est-ce que c'est la voiture qui était peut-être plus au niveau
ouais,
de...
Ouais, parce que c'est vrai que cette année,
la
performance...
voiture,
bon,
bah, c'est pas terrible. Hein, suite au Rosso, ça c'est vrai. Cette année...
Ça a l'air mieux, mais ça a pas... Peut-être, ben, effectivement, ça donne une impression bizarre ce qui se passe en ce moment chez Toro Rosso.
Bah, on a l'impression qu'ils ont la voiture.
T'as du mal à la situer, la voiture. Ouais, ils arrivent pas à extraire le potentiel, en fait. On a l'impression qu'il est là, mais que eux-mêmes ne savent pas trop comment l'exploiter.
T'as
quoi.
Du mal à tout situer, en fait, Toro Rosso. Ouais. Pilote, voiture, technicien, même le management.
Au niveau des pilotes, si Vergne arrivait à mieux se qualifier, en course, pour moi, Vergne est plus solide qu'un Ricciardo. Son problème, c'est qu'il part toujours dans des positions qui sont pas favorables. Quand tu pars loin sur la grille, forcément, tu te retrouves plus facilement... c'est plus facile de se faire percuter par une Caterham quand tu pars en fond de grille. C'est logique.
Forcément.
Ouais, c'est vrai que c'est ça ça a été un bon rappel à l'ordre, parce que je crois que Vergne, il avait aussi cette petite tendance à se dire qu'il se rattrapait en course, ce qui était effectivement vrai, mais la problématique, c'est que te qualifier à l'arrière comme ça, dans un peloton où t'es pas vraiment sûr, forcément, enfin, en plus t'es avec des pilotes qui sont un peu moins expérimentés, c'est quand même plus difficile de s'en extraire, on l'a bien vu à Bahreïn, quoi, et je pense que c'est un bon rappel à l'ordre. Je crois que là, c'est pour le coup, ici, il savait très bien que c'était en qualif qu'il fallait chercher chercher les performances. Là, je crois qu'il a bien compris chercher les performances en qualif, quoi, parce qu'il se retrouve là dans un accident qui est visiblement pas de son fait. On fait directement, hein, après, c'est en raison de sa qualification. Et mais je te rejoins parce que je pense que sincèrement, et même si t'as l'impression quand même, alors bon, peut-être logique d'ailleurs dans les médias anglo-saxons que Ricciardo a plus pignon sur rue et peut-être plus pressenti comme le favori, et même les dernières déclarations de Marco semblent le dire, effectivement je pense que Vergne a un avantage, mais un avantage qui malheureusement est en train d'être réduit à néant par ce début de saison. Mais après pour le reste, c'est clair que... Je sais pas comment tu décides. Je sais pas comment tu décides chez Toro Rosso.
Un petit coup de balai.
Un pilote qui. Bah non, mais c'est ça. Mais est-ce que non, mais le problème c'est que à un moment leur politique elle est bien sympa, mais il faut quand même que tu prennes une décision à un moment, parce que tu peux plus dire on amène tous les deux ans deux pilotes nouveaux en F1 et puis à un moment bon bah finalement c'est bon, on les jette, on en garde un quand même troisième pilote parce qu'il faut bien un troisième pilote. Bien à un moment il y a quand même une remise en cause de la politique, parce que ça va être bien joli à la fin de la saison s'ils ont toujours pas quelqu'un qui se dessine comme le successeur de Weber.
Mais
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quand même pas encore reprendre deux autres pilotes? Enfin, ça me paraît...
Leur politique est peut-être la bonne, mais c'est la détection qui est peut-être pas non plus exceptionnelle.
Parce que le
problème, c'est qu'ils sont coincés sur le mythe Vettel. C'est-à-dire qu'ils espèrent découvrir le nouveau Vettel. Mais Vettel, c'est Vettel, il y en a pas non
c'est vrai que
un
des
tous
Vettel,
les ans.
Mais c'est comme ça qu'ils nous vendent les nouvelles recrues chez Toro Rosso. Moi, Ricciardo, ils nous l'ont vendu, ils nous l'ont survendu, quoi. Vergne, peut-être un peu moins, mais Ricciardo, quand il est arrivé, même chez HRT...
C'est vrai que si tu fais la liste de la filière Red Bull, les Hammer Müller ou des gens comme ça qu'on a vu passer, les Brandon Hartley, etc., ben
quand tu vois le champion de Formule Renault 3.5, Robert Freins, ou je sais pas comment...
Robin Freins.
Qui a tiré à boulet sur Red Bull pendant l'hiver, il n'y a pas totalement tort. Hein, dans les faits, dans l'absolu, sur Red Bull, il n'a pas forcément tort. À part parce que Vettel, c'est vrai, bon, voilà, trois titres de champion du monde, mais à part Vettel, ils ont sorti quoi, Red Bull, de leur filière?
David Coulthard. Ils ont sorti de la F1, quand même.
Ah ouais. Mais non, mais si tu retires, si tu acceptes Vettel, leur filière, c'est un échec, quoi. C'est un échec complet, quoi. C'est caché derrière l'arbre Vettel, qui restera pas non plus éternellement chez Red Bull, parce qu'il est jeune, parce que il aura, comme tout pilote, envie de changer d'air et se lancer à nouveau
défi. Lewis est parti, on peut se dire que n'importe qui peut partir de n'importe où.
Mais c'est logique. Enfin, je veux dire, Schumacher l'a fait en quittant Benetton, Alonso a aussi quitté Renault, parce qu'il avait besoin d'un nouveau défi. Une fois que t'as gagné tout avec une équipe, t'as envie de... Voilà, parce que Vettel, aujourd'hui, il gagne, on le considère comme un grand pilote, ce qu'il est, il y a pas à douter, mais il y a aussi le fait, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il ferait sur une autre voiture, quoi. Donc, changer d'équipe, c'est aussi prendre une autre dimension, comme ce que Hamilton pourra sans doute faire avec Mercedes, ou ce qu'Alonso fait avec Ferrari, même s'il a pas encore décroché le titre, quoi.
Ouais, bah d'ailleurs, la potentielle arrivée de Raikkonen chez Red Bull pourrait permettre à Vettel de passer un premier palier qui est de se confronter à un adversaire de grande valeur avec la même voiture. Donc pourquoi pas une arrivée en 2014, et puis si jamais ça se passe bien pour lui, qu'il a déjà 5 titres de champion, il pourra bifurquer, il pourra tenter, je sais pas, une écurie rouge au hasard. Je vois.
Marussia? Ah, c'est un joli défi à l'existence.
C'est drôle, hein, tout le monde le voit chez Ferrari, alors que, imaginez, Vettel chez McLaren.
Non, mais c'est clair que... Bon, enfin, je sais pas combien il aura de titres, hein, quand il voudra aller chez Ferrari, enfin, quand il pourra aller chez Ferrari, mais c'est clair que c'est la consécration, malgré tout, enfin, je sais pas, en plus, il gagne un titre. Enfin, on extrapole, ça fait beaucoup de titres, parce que là, on est rendu à 17 titres, mine de rien. Mais voilà, quoi. Mais déjà, l'année prochaine, avec Kimi, si ça se fait, c'est clairement déjà un pas de plus dans la cour des grands. Il y est déjà forcément, enfin, je veux dire, ses titres souffrent d'aucune contestation, il n'y a pas de problème. Il mérite ses titres. Mais là, c'est vrai que si tu confrontes à un des grands pilotes de sa génération, là, on gagnerait en intensité et peut-être en légende, Vettel.
Ah, puis beau package, quoi. Beau duo et tout. Ah, ouais, Raikkonen, Vettel.
Sur Raikkonen, Marco pourra pas dire, il performe deux courses sur l'année, quoi. Raikkonen, si tu lui donnes la voiture, il est rarement à côté, quoi.
Alors, faisons un peu de prospective. Est-ce que si Raikkonen part de Lotus, qui est à la place?
Balzeki.
Est-ce qu'on met gros... c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce que tu mets Grosjean numéro 1 ou...
Non, je pense pas. Déjà, moi, cette année, j'ai l'impression que même dans leur com, on sent très clairement que ils espèrent pouvoir jouer le titre, mais c'est clairement avec Raikkonen qu'ils le jouent dès le départ. Moi, j'ai l'impression que déjà, c'est un moyen de retirer de la pression de Grosjean. Que l'an dernier, même encore aujourd'hui, tout le monde espère que bientôt avoir une nouvelle victoire française. Logiquement, ce serait Grosjean qui la remporterait parce que c'est le mieux placé, c'est lui qui a le meilleur matériel. Donc, miser clairement sur Raikkonen pour jouer le titre, c'est, je pense déjà aussi de lui enlever un peu de pression à Grosjean, même si on sait très bien qu'il a totalement le potentiel pour le faire. Boullier l'a rappelé pendant l'hiver. Donc, le propulser numéro 1, je suis pas totalement sûr que ce serait une bonne idée pour 2014.
Bah, ça dépend de cette saison-là. C'est clair qu'on peut pas savoir parce que ça se trouve, il va faire un reste de saison incroyable et il sera légitime si jamais Raikkonen pas.
À moins qu'il s'impose de lui-même dans numéro 1, enfin pas en battant Raikkonen, mais si Raikkonen part et qu'il aura fait une bonne saison.
La suite de la saison sur le même tempo que le Grand Prix de Bahreïn, là, on réduira totalement notre jugement et je pense qu'il pourra prendre la place de pilote numéro 1, mais. Déjà de rappeler, la saison est longue.
Ouais.
Un pilote pour Lotus.
Kubica, bien sûr.
Kubica,
oui, Kubica qui s'entraîne dans le simulateur Mercedes.
Il pilote le coup d'aller partir.
Après cette première salve d'actu, je vous propose de revenir sur le sondage d'il y a 3 semaines. Et souvenez-vous, salut de Marguerite. Nous vous posions la question sur cette fameuse bande-annonce de Rush, qui était sortie juste dans le dernier Mac du SAV, et on vous avait demandé, est-ce qu'elle vous avait donné envie de voir le film, qui, on vous le rappelle, sortira au mois de septembre. Vous avez été 74 à voter. Alors, j'ai envie de faire comme la Marguerite, donc ça commence par un peu, et un peu a reçu 15 votes, 20,27%. Donc voilà, 20% de gens qui, ont peut-être attendre encore de voir ce que va vraiment être le film, mais qui, ça les intéresse un peu. Beaucoup a fini premier avec 34 votes et 45,95%. Passionnément a fini troisième avec 11 votes, 14,86%. Et alors ceux qui sont déjà, c'est déjà peut-être pour eux le chef-d'œuvre d'un film de F1, à la folie. 7 votes, 9,46%. Et puis parce qu'il faut toujours un pas du tout. Eh ben vous avez été seulement 7 à voter pas du tout. C'est un futur navet, donc aussi 9,46%.
J'aime la nuance.
Donc ça fait quand même près de 90% des gens qui ont voté qui ont qui ont visiblement au moins un peu apprécié la bande-annonce et qui vont s'intéresser au film.
En plus, il y a une deuxième bande-annonce qui est sortie, un peu plus longue.
Et l'affiche du film aussi, non ? Avec la tête de l'acteur qui fait Loda.
À l'affiche, j'ai pas vu, mais la deuxième bande-annonce, il y a une espèce de making-of aussi qui est sorti, je pense. Donc bande-annonce avec...
Mais ne regardez pas tout ça, parce qu'après, vous allez voir tout le film avant d'avoir vu le film.
Là, c'est clair que la deuxième bande-annonce, sans être méchant, si tu connais pas l'histoire, normalement...
Faut toujours faire comme ça, quand c'est des films et tout ça, vous regardez le premier teaser, vous dites, je vais aller le voir ou je vais pas aller le voir, et ne regardez plus le reste, parce qu'après, sinon, vous allez tout vous spoiler.
Non, mais c'est prometteur. Ouais. Attendons de voir.
Je vous mets dans le chat l'affiche du film.
Oula !
Oh !
Beau gosse.
Attends.
Donc apparemment c'est lui la star du film.
C'est Chris Hemsworth.
Ouais, qui joue dans Thor 2 d'ailleurs.
Mais oui, tu savais pas que c'était Thor. James Hunt.
Thor 2.
Thor 2. The Dark World.
Mais j'ai un peu peur du côté surdramatisation de tout ce qui se passe autour. J'ai ce sentiment que ça peut être un petit peu exagéré tout ce qui se passe autour.
Changer ses pneus.
Non mais c'est ça en plus. Il y a ce côté on sent que ça va être un drame un peu, tu vois. Oh, voyons voir.
Avec des phrases comme dans l'article de Gizmodo.
Les types qui ne connaissent rien.
Vous avez vu, il a mis un turbo sur le moteur électrique pour consommer moins d'énergie.
Ah non mais ça me rappelle, j'ai regardé.
Non, tu sais bien que
sur Driven.
Ces trucs là, c'est que dans les mangas japonais, les trucs de surcompression et tout ça. Il y a que les fans de mangas japonais qui peuvent apprécier ce genre de trucs.
Les
super boosts de la mort, les techniques de dérapage de drift de fou. Non, c'est du grand public quand même, Rush.
Ouais.
Ce sera juste, oui, on met du sans-plomb dans la voiture. Oui, on est en 76 quand même.
Je déclenche mon KERS. Qu'est-ce que tu dis?
Tu verras, un jour, il y aura des moteurs électriques en F1. Mais foutaise.
Je vais aller parler de Driven. Je sens qu'on a, on risque de passer à côté d'un grand moment.
Non, non, bah voilà. C'était ça, le grand moment. C'est que j'ai revu Driven.
Avec les commentaires du SAV disponibles sur le site savf1.fr?
Non!
Non!
Mais tu fais bien de le rappeler, hein, parce que c'est bien ces commentaires.
Avec Memo, l'homme qui parle avec le nez.
Ah non, mais c'est juste génial. Ah, il bourdonne! Ah oui, c'est vrai. C'est très intéressant.
Allez, on va quand même évoquer les quelques actus dont on se fout. Il y en a pas beaucoup, parce que de façon générale, il n'y a pas eu beaucoup d'actus. Ah.
Est-ce qu'on a cité des actus de Jennifer déjà ou pas? C'est pour ça, ça l'a bien fait d'envoyer son mail quand même.
Oui. Sur ces trois actus, on en a cité deux.
On apprend pas beaucoup de
rien. Ah bah, d'accord.
Alors, première actu.
Et c'est quoi ce... Attends, excuse-moi, mais c'est quoi aussi ce truc de faire un podium avec trois actus? D'où tu vois ça?
Qui fait ça?
Non, mais sérieusement.
Mettre trois trucs sur un podium, c'est... Donc, première actu secondaire, hein, 2014, des essais dès janvier pour peut-être se diriger à une ouverture à Bahreïn. Apparemment, c'est les négociations qui auraient en cours. Il pourrait y avoir des essais dès la fin janvier, qui seraient en Espagne, mais après, qui se dirigeraient, alors, forcément, le Qatar, Abu Dhabi, je crois même que le Qatar, est sur les rangs, avec peut-être une dernière séance qui aurait lieu juste avant le premier Grand Prix à Bahreïn.
Ouais, l'ouverture de la saison à Bahreïn, moi, ça me tente pas. Enfin, je suis un grand fan de l'ouverture à Melbourne parce que Melbourne, c'est
le truc qui m'emmerde. Le truc qui m'emmerde, c'est que si le, parce que à la limite, il nous dirait, c'est juste pour l'an prochain, parce que voilà, c'est les nouvelles voitures. Exceptionnellement, on fait comme ça. Je dirais, pourquoi pas, si c'est juste une année. Mais le problème, c'est que Bahreïn, c'est pas que l'an prochain qui veut être premier Grand Prix, quoi.
Ouais. Après, les essais sur des circuits autres que ceux en Espagne ou en Europe, ça peut être une bonne idée, parce que cette année, ils sont clairement pleins de la météo, ils étaient beaucoup trop froids et les Pirelli marchaient absolument pas. Je pense que pour la compréhension des pneus, ça peut être une bonne chose.
Ouais, mais ça, après, la météo, c'est très ponctuel, hein. Si ça se trouve, l'an prochain, au mois de février en Espagne, il fera 35 degrés et il y aura pas une seule goutte de pluie, hein.
Oui, puis il y a une année, ils étaient à l'époque où les équipes faisaient un peu leur petite popote comme elles voulaient au niveau des essais. Je pense qu'il y avait eu de la pluie à Bahreïn où il a eu Toyota et Ferrari avaient eu un temps de merde. Ouais. Donc de nouveau, là, t'es pas garanti, mais bon, c'est toujours un peu... dans l'absolu, l'idée peut être bonne de faire au moins une semaine d'essais dans un pays plus chaud. Maintenant, commencer les essais en janvier, plus pour le moteur alors, parce que je suis pas sûr que toutes les équipes puissent être prêtes avec leur monoplace 2014 pour début janvier, voire même mi-janvier. Quand tu vois que déjà cette année-ci, Red Bull, ils ont été limite avec la RB9 pour la lancer, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit. Et ici, la saison risque quand même de se jouer encore jusque dans la dernière course. Ce serait étonnant qu'à mi-saison, on ait un champion du monde.
Là, c'est vrai que...
Donc ça va jouer tout ça, dans tout ça. Maintenant, est-ce que installer le V6 dans une monoplace 2013, pardon, c'est une option? Je suis pas sûr. Donc
c'est compliqué. Hein.
Là encore, ça me paraît compliqué de faire des essais si tôt. Qu'il y ait plus d'essais, une semaine de plus, c'est ce qui est prévu. Ça, c'est totalement logique. Parce que voilà, le moteur, il faut le tester. Ça fait des changements relativement importants. Non, janvier, ça me paraît un peu tôt. Pas sûr que beaucoup d'équipes puissent tenir le calendrier. Sauf Mercedes, peut-être, puisqu'à partir du mois de mai, ils vont complètement...
Oui, d'ailleurs, c'est une des autres actus, la fameuse troisième actu de Jennifer, hein, voilà, vous savez laquelle c'est. Mercedes travaille à 50% sur 2014.
Bah, de toute façon, ils visent pas 2013, clairement, chez Mercedes, hein. Dès le départ, dès l'hiver, on a senti que la véritable opportunité, c'est 2014 pour eux. J'espère refaire le coup de 2009.
Ouais, enfin ça, le coup de 2009, ça restera quelque chose unique. Hein,
je pense qu'ils y arriveront pas, mais c'est un bon moyen en tout cas, je pense, pour réellement réduire l'écart.
Mais au moins, ils peuvent se dire que, parce qu'il y aura quand même des choses qui seront dans l'évolution de 2013, ils sont quand même s'ils se tournent vers 2014, ils peuvent se dire que les choses de 2013, voilà, ils ont quand même atteint un nouveau gap cette année. Hein. C'est quand même beaucoup mieux que...
Et ils ont quand même toujours un peu du mal avec les pneus. Hein. Moi, ça m'hallucine de voir une équipe avec autant de cerveau dans sa base, de pas réussir à gérer des pneus. On voit Rosberg, il s'est écroulé après deux tours, même pas. À Bahreïn, c'était une catastrophe. Quoi.
C'est parce qu'il faisait soleil.
Oui.
T'as vu, à un moment, ils disaient, ah, tiens, la plupart du circuit est à l'ombre, les Mercedes vont mieux. C'est eux qui poussent pour le Grand Prix nocturne, en fait. Non, mais oui, de toute façon, Mercedes, sans surprise, déjà, sur la voiture de cette année, ils t'ont dit, de toute façon, c'est une simplification, donc voilà. Il n'y a aucune raison, de toute façon, qu'ils jouent quoi que ce soit. Je sais pas. C'est une équipe qui a eu peur de se retrouver ridicule, je pense, sincèrement, et puis qui se voit pas si mal en ce début de saison, mais qui a bien conscience qu'ils vont faire une saison, je pense, à la 2012, hein, c'est-à-dire un début de saison trompeur, et un reste de saison plus difficile, sans doute pas dans les mêmes proportions, enfin en tout cas je le souhaite pour eux, parce que surtout s'ils ont travaillé sur la voiture pour quand même essayer de réduire ces problèmes-là. Bon, surtout qu'il fera pas toujours aussi chaud, même si on s'approche de la saison estivale en Europe, même s'il fera pas toujours aussi chaud qu'à Bahreïn, mais c'est de toute façon une décision on ne peut plus logique, comme tu dis Ben, quoi, ils ont rien à jouer cette saison, c'est clairement en 2014 qu'ils sont attendus de toute façon, là c'est presque du bonus, hein, tout ce qui leur arrive, deux pôles, c'est déjà deux pôles, deux podiums je crois, oui c'est ça, deux podiums, bon c'est déjà pas mal hein, pour Mercedes. Il faut qu'ils capitalisent là-dessus, il faut quand même pas non plus qu'ils se laissent trop aller comme la saison dernière. Je pense qu'il leur intéressait clairement de bien travailler sur une voiture 2014, sur laquelle là par contre on leur pardonnera beaucoup moins ce qui s'est passé à Bahreïn, et en espérant qu'ils y mettent les moyens, qui sont pas, malgré tout, n'oublions pas les moyens des grosses structures que sont Red Bull, que sont Ferrari, que sont McLaren, mais bon, avec des ambitions affichées rien que par le recrutement d'Hamilton, qui est pas venu là non plus pour faire du tourisme, voilà. Mm. Et puis même d'autres ambitions au niveau du staff.
De toute façon, hein, on leur pardonnera que... d'autant moins que c'est, enfin, comme on l'a déjà dit, c'est clairement leur objectif 2014, c'est vraiment de réduire l'écart et de venir, et pas forcément de jouer le titre, ou en tout cas d'être sérieusement, de se rapprocher sérieusement des voitures devant, jouer avec elles, quoi. Mm. Si cette saison, il leur manquerait juste une victoire, je pense qu'éventuellement à Monaco, globalement, je pense que la voiture, elle est plus ou moins dans le même niveau que ce qu'elle n'était l'an dernier. L'an dernier, ils ont pas fait un mauvais début de saison. À la limite, à Monaco, ils peuvent encore tirer leur épingle du jeu. Ils auraient pu le faire l'an dernier. Hein.
Ouais, ouais,
qui part devant, on sait comment ça se termine à Monaco.
L'année dernière, il n'y avait aucun problème pour Rosberg à suivre le petit train-train qu'il y avait eu. Donc, que la voiture bouffait plus les pneus, je pense qu'il y a moyen, oui, de faire un très bon résultat à Monaco.
Ouais, bah,
qui serait vraiment...
Le problème pneu existe toujours. Il me semble quand même un peu moins conséquent qu'avant. Encore heureux. De toute façon, voilà, 2013, c'est clairement pas leur objectif. Donc, ils vont se tourner progressivement de plus en plus sur 2014. Très logiquement.
Après, c'est pas dit que les autres écuries en fassent pas de même en même temps. Hein. Mercedes le dit, mais si ça se trouve, Red Bull, Ferrari sont dans des proportions peut-être un poil moins importantes, mais sont déjà tournées depuis 2014. Moi, j'ai quelque chose dans la tête de Williams qui disait en septembre dernier que, en soufflerie en tout cas, c'était un tiers entre 2012, 2013 et 2014. Donc,
oui, mais est-ce que des équipes comme Ferrari et Red Bull peuvent se permettre de passer, de faire travailler autant de donner 50% de leur l'usine qui travaille sur 2014 alors qu'elles se battent
peut-être
pour le titre.
Peut-être pas 50%, mais il y a une proportion sûrement non négligeable parce que la dernière fois en 2008, Ferrari, j'espère, va apprendre de son erreur. En 2008, Ferrari et McLaren ont travaillé jusqu'au bout pour le titre de champion du monde et se sont très peu concentrés sur 2009 visiblement et sont arrivés en 2009 complètement perdus. Donc la logique voudrait qu'ils mettent un peu plus de ressources sur 2014, en prévision de ça. La dernière fois, c'était vraiment pas bien brillant.
Travailler sur les deux programmes en parallèle, je pense qu'effectivement, elles vont toutes le faire. Maintenant, c'est voir dans quelle proportion elles vont se permettre de favoriser 2014 par rapport à 2013. En fonction de leur position, je pense que McLaren, très tôt, pourra aussi, même si Whitmarsh prétend son objectif, il poussera tant qu'il peut pour que McLaren gagne, même si c'est jusqu'à la dernière course en 2013. Parce qu'à un moment donné, ils vont aussi se rendre compte que, à moins qu'à Barcelone, tout d'un coup, la McLaren survole les débats. Je pense que la problématique risque peut-être plus de se poser pour Ferrari, Red Bull, Lotus, éventuellement, qui elles sont probablement les trois équipes qui vont jouer les titres. Quoi.
Allez. Voilà, justement, ça donne peut-être à McLaren un avantage pour l'année prochaine. Mmh. McLaren, ils disent qu'ils vont pas encore sacrifier 2014, mais ça va pas tarder.
Mais c'est vrai que McLaren, enfin, on n'attend pas qu'une équipe comme McLaren dise à ce stade-ci de la saison, on abandonne, ça fait pas partie de la génétique de l'équipe, c'est pas, enfin.
Enfin, ils sont quand même à 70 points, hein, plus de 70
oui,
points.
Ils sont obligés de dire on va tout faire pour essayer de revenir devant, mais au bout d'un moment, le discours tiendra plus, quoi. Mmh.
Après quatre courses, oui, mais je pense que nouveau, par exemple, après la pause estivale, si la situation ne s'est pas améliorée de façon exceptionnelle, je pense que aussi ils auront clairement
Après, faut clairement non, pas négliger, surtout dans le cas de McLaren qui a quand même revu la philosophie de sa voiture en partie. Faut pas négliger ce travail-là, le travail de 2013 qui sera sans doute clairement aussi oui. Une base de travail pour 2014.
Ah bah, il y a des choses. Je pense qu'au niveau de la suspension, c'est clair que ce qu'ils apprennent aujourd'hui, c'est ce qu'ils ne devront plus apprendre après. Ouais. Mais
et puis
domaines dans lesquels.
Et puis on sait que ça fait pas tout de passer tôt dans la saison à l'année suivante. Regardez BMW en 2008, oui. Ils ont abandonné les espoirs de titre alors que Kubica était encore en contention pour avait encore des chances quoi. Et résultat début 2009, à part à Melbourne où ils auraient pu faire un podium, ils n'étaient pas là quoi. Ils avaient une des voitures avec l'aileron avant le plus simple du monde, le moins développé. Et... alors que quand tu regardais celui de Brown, c'était il y avait du carbone de partout alors que celui de BMW, c'était trois pauvres morceaux de carbone, tout simple, quoi.
Et en 2010, ils étaient plus là du tout.
Oui. Allez.
Ils sont vite décidés, eux.
Allez, autre actu, Gus Gus. Alors, Camille, son intitulé, c'est un attentat déjoué à Bahreïn.
Point d'interrogation. Parce que moi, je suis très sceptique devant cette nouvelle. C'est un communiqué du responsable de la police bahreïnie qui dit que il y aurait eu un attentat déjoué le dimanche par la sécurité du Grand Prix à l'entrée du circuit. Soi-disant qu'un coussin était dissimulé par deux femmes qui voudraient tester la sécurité en vue d'une tentative d'attentat.
C'est de la propagande anti-féministe, ça, c'est...
Non, mais oui, non, mais... Moi, je trouve ça très surprenant que on teste la sécurité... Admettons, vous avez des velléités d'attentat, si vous nous écoutez. Si vous voulez commettre un attentat le jour J, testez la sécurité au jour J-1, pas le dimanche. Parce que après, il faut ressortir, il faut revenir avec le matos, et il faut le commettre, l'attentat. Moi, je suis très sceptique là-devant, parce que... ça tient assez peu debout là, ce qui nous raconte. Tu vas pas tester la sécurité d'un circuit avec un coussin, et quand bien même t'es pris avec sur toi un coussin, c'est pas un objet dangereux. Tu dis oui, c'est un coussin pour m'asseoir par terre ou je sais pas quoi, parce que voilà.
Tu ne sais pas qu'au barré les coussins sont interdits.
mais voilà, donc. Moi, je trouve qu'on nous raconte une histoire un peu à dormir debout et personne a bien insisté dans les articles sur le fait que voilà, ça tenait pas vraiment debout et que en plus bon, ça a moins rapport avec les manifestations, mais le circuit a annoncé une audience de 28 000 spectateurs sur le circuit. Ouh. Les gens sur déjà wouhou, et puis les gens ils devaient être tous en toilette en même temps pendant une heure et demie quoi pour parce que c'est pas ce que les gens sur place disent. Il y avait vraiment personne dans les tribunes.
Ils tenaient les draps.
Déjà dire ouais, il y a 28 000, c'est pas terrible hein, par rapport à la taille mais... le nombre de places qu'il y a sur d'autres circuits. Wow.
Peut-être c'est 28 000 sur les 3 jours.
Ah ouais. Oui, c'est possible. C'est possible.
Bah 28 000, tu remplis les tribunes du circuit du Qatar hein. Oh, ça m'impressionne de voir ce circuit, il y a une tribune que dans la ligne droite des stands, c'est... le reste,
oui,
il y a
c'est
rien.
Vrai, c'est...
Et à Bahreïn, c'est quasiment pareil, il n'y a pas de tribune, si, il y a des tribunes au bout de la ligne droite, je crois.
Oui, c'est tout.
Et sur les abords, il n'y a pas de gens sur des talus, enfin,
il n'y a pas de talus. Palmiers et du sable.
Même ouais, avoir des gens...
Même le Castellet sans les tribunes spéciales fait plus, quoi.
Ouais, non, oh là, c'est... attention, là, je trouve que t'es bien affirmatif.
J'ai pris des pincettes.
Oui, bah de toute façon, j'ai vu cette information, enfin le titre en tout cas. Et alors, de toute façon, on peut aussi penser du pouvoir en place pour montrer une certaine facette des opposants et une manière de dire, voyez, heureusement qu'on était là, ils voulaient perturber une manifestation pacifique.
Ouais.
Il y a évidemment cet intérêt.
Ouais, puis on contrôle la situation.
Voilà,
ouais,
il y a évidemment cet intérêt.
Il y a peut-être un truc qui aurait pu se passer, on l'a arrêté avant. Quoi. Ouais, faut toujours être un peu, faire attention.
En fait, il y avait écrit Human Rights sur le coussin.
Allez, dernière petite actu. Bras de fer entre Bernie et Interlagos. Ça fait des années qu'Interlagos dit oui, on va faire nos travaux et tout ça. Ça n'avançait pas. Alors je sais pas si oui apparemment ils ont entériné le fait qu'il y aurait des travaux, ils veulent prolonger leur contrat jusqu'en 2020 pour être peinard. Surtout que Bernie il est allé à Rio.
Mais c'est ça en fait, ils veulent bien faire l'investissement, que le projet est prêt et que y a, on va dire qu'il y a signé le chèque, mais presque. Et voilà, en contrepartie, ils veulent s'assurer de, leur, de l'avenir de. Ce qu'ils vont pas faire
ah bah non,
un investissement pour la Formule 1 si la Formule 1 vient plus, ouais. Faut être logique aussi deux minutes. Donc eux, ils veulent bien changer, les, refaire les stands. Je pense qu'ils déménageraient du coup après le.
Oui, c'était l'idée.
Je pense,
oui.
Hein.
Ça va faire une belle entrée au stand, ça, disons.
Oui.
Ce qui est surtout dommage, c'est pour le départ, quoi. Si le départ vient là, on perd le départ dans l'ES, c'est un peu dommage. Enfin bon, bref. Ben voilà, en contrepartie, ben, ils veulent s'assurer l'avenir, la présence de la F1 jusqu'en 2020. Ce qui n'est pas totalement irréaliste. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quand court leur contrat actuel à Interlagos, mais bon, un renouvellement de 7 ans, en partant du principe que 2013 serait la dernière de leur contrat actuel. Pas demander la lune non plus, quoi, quand tu vois que certains signent pour des périodes ben, un peu plus importantes. Bon, ce serait quand même dommage de se priver d'Interlagos aussi.
Oui.
Voilà, une saison qui débute à Melbourne et qui se termine à Interlagos, entre les deux, on peut faire quasiment ce qu'on veut.
Non, ne dis pas des choses comme ça, après ça valide des choses.
C'est clair. Mais c'est fou quand même l'aura qu'a pris la fin de saison à Interlagos en relativement peu de temps, parce
que
il n'y a pas si longtemps.
Il n'y a pas si longtemps, c'était
la deuxième ou la troisième manche du championnat. Et,
Et
dès qu'on l'a mis, je crois que c'est en 2005. Alors 2005, c'était pas la dernière, mais ça a été mis en fin de saison, parce qu'après, il y avait Shanghai, je crois. Mais ouais, l'aura que ça a pris en 2006, c'est avec la course de Schumacher, etc.
Ouais, puis il y a tellement une ambiance sympa là-bas que voilà, de la même façon quoi, là, que l'Australie, c'est une ambiance particulière et que pour une rentrée des classes, c'est vraiment sympa. Ouais, les deux se répondent bien finalement en tant que début et fin de saison.
Ouais, et puis de toute façon, enfin 2007-2008, on a eu des courses, des dernières courses de dingue. L'an dernier, Vettel a aussi failli tout perdre, donc...
Même en 2004, alors que le titre était joué depuis longtemps, il y avait une belle bataille entre Montoya et Raikkonen.
Public, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que là, on a chaque fois
quand
on a la chance ces dernières années d'avoir des...
Quand à la télé, tu entends le public faire Rubens ou Felipe, et que tu les entends, alors que, voilà, les micros, ils sont tournés vers la piste, hein, pas les tribunes, et que tu entends ce public...
Ouais.
C'est génial.
Ouais. C'est des vrais fans, quoi.
Mais que dit Bernie? Les fans ont plus de bruit que les moteurs.
Mais c'est pour ça, c'est comme en Australie, c'est des gens qui adorent le sport, et je pense qu'au Brésil, c'est encore plus des vrais fanatiques, dans le bon sens du terme. Voilà, c'est des rendez-vous, si t'as envie de... C'est des circuits, enfin des rendez-vous dont on ne voudrait pas se passer, quoi.
Oui, puis c'est les circuits d'une certaine époque de la Formule 1, quoi, de l'époque où des vrais tracés difficiles particuliers qui sont différents, quoi, que des tracés actuels, et puis des
disons qu'ils ont
des tracés
ils
dangereux,
ont une identité,
quoi, faut le dire aussi.
Voilà, ils ont une vraie identité, parce que enfin bon, c'est vrai qu'Interlagos dans sa forme actuelle, il date des années 80, mais bon, si tu prends par exemple l'Australie, il date que du milieu des années 90, hein, finalement.
Non, mais des tracés, voilà, de l'avant tout sécuritaire.
Oui. Ouais. Bah, le tracé de Melbourne en soi n'est pas exceptionnel. C'est parce que c'est le premier, c'est parce que c'est des conditions particulières, c'est parce que les équipes découvrent un peu tout et enfin, seulement en milieu de saison, je pense que Melbourne est beaucoup moins sympathique, hein.
Ah, je sais pas. Je pense que Melbourne, c'est comme le Canada. Ça, c'est des circuits qui ont un potentiel sympathie automatique. Même le Canada, enfin, t'es content d'y aller, quoi.
Oui.
Mais le Canada, c'est de nouveau des gens qui adorent ça, quoi. Montréal et Melbourne, c'est des villes qui vibrent au son de la F1 pendant à peu près une semaine. C'est.
Mais parce qu'en plus, le Grand Prix est au cœur de la ville à chaque fois. São Paulo, c'est un peu dans la périphérie, mais c'est quand même désert urbanisé où il y a des gens autour du.
Qu'ils sont venus en fait. C'est-à-dire que Interlagos, je crois que c'est Moncey qui le disait, quand il y allait il y a 30 ans, il n'y avait rien autour. Alors que maintenant, il y a de la ville autour.
Mais moi, São Paulo me fait moins rêver, personnellement.
Bah voilà, c'était tout pour les actus. Oui, il n'y a pas eu beaucoup d'actus. Et...
Ah bah on va aller se coucher, merci d'être venu.
On n'a vraiment rien à dire.
On va aller se coucher.
Messieurs, cette semaine, le sondage, une envie, un sondage classique, un sondage moins classique. Cette année, je trouve que toutes les semaines, pour les bacs, on balance des sondages vraiment très inspirés. Hein.
Est-ce que vous avez aimé le deuxième trailer?
Ah non,
Il n'y a que trois actus.
Il y a, comme d'habitude, les cinq actus classiques, et puis il y a quatre actus dont on se fout, quoi. Mais c'est vrai que cette semaine... Puis c'est tellement plus fun, je trouve, de proposer toutes les semaines des trucs barrés. Les couleurs des McLaren, les bandes annonces.
quelle prochaine épreuve pour confronter les pilotes Red Bull
Ah oui, et le, oui, excellence.
Et le management.
Les fléchettes.
Un match de curling.
Un concours de plongeon diffusé à la télé.
Non, non, un concours de fléchettes avec la tête de Marco, celui qui vise l'œil de verre.
C'est bon, ça.
Ça peut être pas mal, en effet. Je note les fléchettes, le curling. Rappelons qu'on a 10 choix, hein, donc vous avez...
Un concours de petits bateaux.
Le jokari.
Le jokari, c'est clair.
Le billard à 3 bancs.
Un concours de Jenga.
Un multijoueur sur F1 2012.
vous savez que sur Sky Sport, ils font jouer, vous voyez, le jeu de Jenga, la grande tour avec les machins en bois, là.
Ouais.
Et ben, ils ont une version XXL sur Sky Sport, et ils font jouer les pilotes à ça. Ils vont voir chaque écurie, et les deux pilotes de l'écurie jouent.
Donc, déjà, la question. Donc, à quelle discipline voulez-vous voir s'affronter? Donc, les pilotes Red Bull, d'accord.
Ah, les pilotes Red Bull,
c'est ça. Est-ce que vous préférez les pilotes Red Bull entre eux ou bien les pilotes contre...
Moi, je leur donne pas de fléchettes, hein, pas d'objets.
Il faut faire la continuité du baby-foot.
Ah. Donc, plutôt les pilotes contre...
Contre leur management.
Voilà. À quelle discipline voulez-vous voir s'affronter les pilotes contre le management Red Bull?
J'avoue que voir Edmund Marco faire du tir à l'arc, ça doit être...
Donc, pour l'instant, j'ai noté les fléchettes, le curling, le jokari, le billard à trois bandes et le Jenga.
Docteur Maboul.
Donc... Oui. Docteur.
Bah ouais, pourquoi pas.
Un Monopoly, mais il faut pas que Bernie joue.
Oula. Oui, c'est clair. Je fais la banque. Non, non, Bernie. Cette fois, c'est pas toi.
On a encore trois choix.
Un Guitar Hero.
Avec Kubica.
Ah, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Au bowling.
Mais on a déjà le curling.
Pilotus, les pilotes auront un avantage. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà le curling.
Le bowling, c'est gros gens qui gagnent, c'est trop facile.
Ah ouais, bah c'est ça, chez Lotus, les pilotes ont un avantage.
C'est pareil, hein, tous les jeux d'alcool, c'est pas la peine, on sait qui gagne déjà.
Ah aussi. Ça serait bon, ça.
Ouais, c'est vrai qu'on est très inspiré en ce moment sur les quiz.
Ah, Uno, déjà que c'est tendu. Déjà que c'est tendu. Le Uno,
t'as
là,
pas
tu
dit Uno pas un... contre Uno. Si. Si, j'ai dit Uno.
Y'a pas un jeu qui s'appelle le 21?
Le 421.
Bah c'est quel jeu où faut avoir 21? C'est pas le... Non, c'est pas, je confonds.
Au Blackjack.
Le Blackjack. Ouais, mais bon, là... Plutôt un jeu d'équipe.
Bon, j'ai rajouté le Uno.
Non, ben, Formule D.
Ouais, mais c'est trop évident, Formule D.
C'est trop évident, Formule D.
Au Fantasy F1.
Moi, je vote pour.
Oui, d'ailleurs, rappelons qu'il y a toujours possibilité de s'inscrire.
Ça se trouve, ils sont déjà inscrits incognito, tu sais.
Non, mais oui, c'est ça, c'est ceux qui parlent jamais.
Et je vais mettre au Fantasy F1. De toute façon, à la fin, c'est Bilou qui gagne.
Hein? Dit-il, il est modeste. Regardez-le.
Donc cette semaine, encore une fois, on va vous proposer un très beau sondage. Donc, à quelle discipline voulez-vous voir s'affronter les pilotes contre le management Red Bull, tel le match de baby-foot auquel on a eu droit? Donc, vous pourrez choisir entre les fléchettes, le curling, le jokari, le billard à trois bandes, le Jenga, le Dr Maboul, le Monopoly, mais Bernie ne fait pas la banque. Ah, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, au Uno, ou bien au Fantasy F1. De toute façon, à la fin, c'est Bilou qui gagne.
Un bien beau sondage.
Il est bien beau, ce sondage. Ouais. Allez, c'est tout pour tout ce qui concernait les actus. On va passer aux citations.
Ah oui, ça. Ah.
Le truc que tout le monde oublie.
Moi. Ah,
allez, vas-y, Ben.
Vas-y.
Ah ouais, c'est comme ça, je suis sûr que personne ne me l'a dit. Alors, c'est un monsieur qu'on n'a plus entendu depuis longtemps.
Oh non.
On regrette beaucoup.
Oh non. On sait qui c'est qui a parlé cette semaine. Donc...
Un physique de rêve. Des cheveux blancs, magnifiques.
Une moumoute.
Des lunettes bleues,
moumoute absolue.
Et sa chemise. C'est donc Flavio Briatore qui est revenu sur... son implication dans le crash gate de Singapour en disant qu'il n'y avait aucune preuve justement de son implication que si les, ce que les gens disaient à propos de Singapour était vrai, alors pourquoi ai-je viré Piqué au beau milieu de la saison l'année suivante? Pourquoi prendre ce risque?
Bah parce voilà, que tu lui as promis la reconduction du contrat contre ça, justement. Oui.
Voilà, puis j'ai envie de te dire que si lui ne savait pas ce qui se passait dans sa propre équipe, qui dirigeait l'écurie? Sébastien Vettel? Non, enfin voilà, je veux dire, si lui ne savait pas...
Et le pire, c'est qu'il s'appuie sur le jugement qui, effectivement, il dit pas tout à fait ça, le jugement. Il dit, en gros, même si on pressent, on n'a pas de moyens formels, tu sais, mais c'est genre, bon, commence à pouvoir en être autrement, quoi.
Il y a le témoignage de Piqué.
Oui.
Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a pas de preuves matérielles, mais enfin, bon, tout se recoupe, quoi.
De toute façon, Piqué, c'est pas dit tout seul, je vais me foutre dans le mur, ça va faire gagner Alonso, hein. Dire ça a été décidé en amont et qui prend ce genre de décision, c'est le patron de l'équipe est impliqué logiquement. Et s'il dit qu'il n'était pas au courant, c'est encore presque pire, c'est-à-dire qu'il savait pas ce qui se passe dans sa propre écurie et que ça le crédibilise pas plus, quoi.
Et est-ce que vous pensez qu'Alonso était impliqué dans l'affaire?
Je pense qu'il devait
savoir des trucs.
Pas tout blanc.
Pense qu'ils savent.
Il est pas totalement blanc comme neige, quoi. Il a dû se douter, il pouvait pas savoir un minimum de choses, quoi. Je dis pas qu'il était là au moment de la décision, etc., mais je pense que, ouais, il peut pas ne pas avoir été au courant d'un truc, quoi.
Une autre citation? Sinon, je peux donner la mienne?
Bon.
Il va falloir que vous deviniez qui a fait cette citation. Je n'ai pas fait d'erreur majeure, et je pense que cela s'est bien passé en comparaison avec mon équipier. Je me donnerais un 8,5 sur 10.
Ah, c'est Bottas.
Ouais. C'est Bottas.
Pas si mal, mais peut s'améliorer. Donc, j'allais vous demander, est-ce que vous auriez donné un 8,5 sur 10 à Bottas?
Il roule cette année?
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que j'ai voulu prendre cette citation, parce que c'est quand même un des pilotes dont on a le moins parlé depuis le début de saison.
Ouais, non, mais.
Parce que 8,5, c'est peut-être un peu beaucoup, parce que quand il aura une Williams qui marche, il va se mettre combien, quoi, tu vois. Après, je pense que par rapport, effectivement, à Maldonado, il se débrouille pas mal.
Ah oui, ça, il a mérité face à Maldonado.
Il fait pas le figure, mais bon, tu te mets un 8,5 quand tu fais une belle saison avec une belle voiture, con.
Par contre, j'ai le droit de mettre un ta gueule pour les citations, juste pour que quelqu'un se taise.
Bah, typiquement, oui.
Parce que je me dis que je l'ai pas encore mis, ta gueule.
Bon, alors là, vraiment, excuse-moi de te dire que je trouve ça un petit peu limite.
Non, c'est parce que je l'ai pas encore mis, donc je me pose la question.
T'inquiète pas. Gus va faire un truc trop long en réponse au répondeur. T'abrèges.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un répondeur. Non, parce que sinon, est-ce que j'ai droit de le garder pour un prochain SAV, toi?
Non.
J'ai Candino et Hunter sont pas là.
Incroyable.
Non, on l'a déjà dit, l'arrêt est la même pour tout le monde. Pas question de cumuler, parce que sinon, Elder et Dino, ils pourront plus parler toute la fin de saison.
Dino, il vient plus, déjà, c'est, voilà.
Dis pas comme ça qu'il vient plus. Il est juste pas là cette semaine, hein. Il a le droit d'être fan de la monarchie.
Il a un planning chargé.
Il a le droit d'être fan de la monarchie néerlandaise et de ne pas vouloir être là aujourd'hui.
Oui, il allait à Amsterdam pour ça.
Oui, tout à fait.
Oui, rien que pour ça.
Rien que pour ça.
Que pour ça.
Avec trois sacs. Voilà.
Gus, Fab, votre citation? Vos citations?
C'est une citation de Nico Rosberg qui dit « Mon rôle a beaucoup changé depuis l'an dernier. Je suis désormais bien mieux écouté par l'équipe. C'est une excellente chose car en définitive, tout ce que je veux, c'est aider Mercedes à devenir la meilleure écurie du plateau. » C'est étrange que... qu'il se soit pas senti très écouté l'année dernière, peut-être les années passées.
T'as vu aussi qui c'est qui est-ce que scoltiné comme coéquipier?
D'accord, mais il était là, j'allais dire il était là avant, non pas vraiment, mais c'était pas non plus un rookie, c'est quelqu'un je pense à qui on pouvait faire confiance parce que chez Williams il avait pas été ridicule, loin de là. Je pense que c'est quelqu'un avec qui on pouvait faire confiance pour le développement et que... Je trouve dommage qu'on l'ait un peu bridé, entre guillemets, sur ce côté-là.
Ah, c'est clair qu'ici, c'est lui qui a l'expérience, même si à côté, il a Hamilton qui est quand même un type solide. Le point de référence par rapport aux années précédentes, c'est lui, quoi, chez Mercedes.
C'est vrai, parce qu'on pourrait dire la même chose de cette année, quoi. T'as vu l'équipier qu'il a, il a Hamilton. On aurait plutôt tendance à faire plus confiance au jugement d'Hamilton, qui est un pilote qui a plus prouvé parce qu'il avait, il a eu la voiture, etc. Et que c'est un pilote qui a beaucoup de talent. Mais apparemment, cette année, on l'a un peu remis dans le mix et, tant mieux pour lui.
Ouais, mais Schumacher, c'était...
Est-ce que ça va durer?
Schumacher, c'était vraiment quelque chose en termes de mise au point. C'est comme... Voilà.
Ouais, mais...
Peut-être à tort, mais voilà.
C'est-à-dire que si tu te bases sur cette déclaration, ça remet un peu des choses en perspective sur la manière dont s'est développée la voiture. Et on avait tendance à... Il me semble, on avait une petite tendance à dédouaner Schumacher Je sais plus pour quelle obscure raison, mais s'il avait un peu plus de poids dans le développement de la voiture, il est peut-être responsable de ses propres difficultés, au final. Après, ça reste difficile de savoir vraiment, parce que bon, là, tu te bases sur les, sur le ressenti de Rosberg, qui est peut-être pas totalement, qui est qu'une vision déformée de la réalité. Mais c'est intéressant de ce point de vue-là.
C'est quand même un petit tac par derrière à Schumacher.
Bah, clairement, ouais, clairement.
Ouais, et puis bon, Schumacher, c'est vrai que mise au point, c'est, il est souvent, mis en avant comme étant très bon metteur au point, mais c'est aussi de l'époque où Ferrari pouvait tourner autant de fois qu'elle voulait, autant de temps qu'elle voulait, etc. C'est finalement ce qu'on, le reproche qu'on a fait à Ferrari quand les essais privés ont commencé à diminuer, voire pour être totalement interdit, c'est que Ferrari n'a pas réellement su passer à autre chose, en fait. À l'époque de Schumacher, elle était très performante parce qu'elle avait des moyens colossaux, qu'elle tournait à n'en plus finir sur sa piste d'essai, ce qu'elle peut plus faire aujourd'hui. Et Schumacher, c'est aussi cette période-là. Donc, est-ce qu'il avait... ses qualités de développeur étaient aussi importantes dans la F1 actuelle? C'est ça qu'on peut se demander aussi, quoi.
Et toi, Fab, ta citation?
Moi, c'est une citation de Martin Whitmarsh, qui je trouve fait écho à la course qui s'est déroulée après qu'elle ait été que ses paroles aient été prononcées. Il a dit: Pérez a été poli jusqu'à maintenant, il doit s'endurcir. Moi, je trouve que c'est très bien. Il a fait une très belle application de cette consigne à Bahreïn, et j'étais plutôt actif de sa course, une course agressive mais pas trop. Et une façon de se remettre un petit peu en confrontation directe avec Button dans le rail, et puis de montrer une autre facette de Pérez, parce que mine de rien, chez Sauber, il avait pas eu l'occasion de montrer cette facette-là de par les qualités de la voiture de 2012. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'on a vu de quoi il pouvait être capable. Après, le juste dosage sera à trouver et à faire attention aussi, mais il est là pour progresser, et il le fait bien, comme Mercedes comme McLaren progresse lentement. Et voilà, donc plutôt optimiste sur cette course, après à voir si ça se confirme par la suite.
Moi, ce que j'ai apprécié chez Pérez, c'est ses déclarations après course sans langue de bois. Disait on s'est battu, j'ai peut-être été un peu trop agressif, mais c'est la course, on s'est bien battu, on verra ça avec Martin.
Ouais, voilà. Une après-course mieux gérée globalement, que je trouve, que chez Red Bull, qui a quand même
Enfin, surtout, sans commune mesure.
Oui, sans commune mesure, ça c'est clair, mais avec une ligne plutôt tracée, où voilà, on se dit très clairement qu'on peut laisser se battre, après qu'il y a des limites quand même à aller chercher. C'est un peu ce qui ressort du discours des pilotes. Bon, Red Bull, on a eu quand même ce passage très hypocrite de dire je suis vraiment désolé d'avoir doublé, je sais pas ce qui m'a pris, machin, et puis finalement pour arriver.
J'ai pas fait exprès.
J'ai pas fait exprès de doubler. Et pour finalement arriver en Chine, bon, de toute façon, c'est un connard, il méritait vraiment pas que je le laisse devant. Donc voilà, au moins on a quelque chose de clair. Bon, à voir après si en interne il n'y a pas des petits remaniements à ce niveau-là. Mais plutôt optimiste pour Rez après un début de saison difficile.
Ouais, et puis c'est vrai qu'aussi c'était viril avec Button, mais il faut aussi qu'il se jauge un peu. Button et Hamilton ont eu des très beaux duels à la limite, mais sans se toucher, quoi que ce soit, parce que c'est deux pilotes beaucoup plus expérimentés déjà que Pérez. Ça va bien se connaître, donc je pense que tu sais jusqu'où tu peux aller avec certains pilotes. Il y a des pilotes avec qui tu sais que tu tentes un dépassement au pied du raidillon, il n'y aura pas de souci. Avec d'autres, tu vas peut-être te dire on va attendre d'arriver au-dessus. Là, c'est aussi une question de qu'ils apprennent un peu à se connaître. Et Pérez, c'est clair qu'il arrive chez McLaren en ayant des gros espoirs, ce qui est logique. McLaren est une équipe qui est souvent à l'avant. Il en est où elle est un peu en retrait, donc c'est pas forcément évident. Il découvre tout, il doit beaucoup de choses à apprendre. Nouvelle voiture, nouvel environnement, une pression supplémentaire qu'il connaissait pas forcément chez Sauber. C'est pas la même. On n'a pas les mêmes attentes d'un pilote Sauber que d'un pilote McLaren. Et de surcroît, il se retrouve au volant d'une voiture qui performe pas de façon exceptionnelle. Mmh. Donc, tous des facteurs qui font que c'est pas évident pour lui non plus. C'est vrai que la course de Bahreïn rassure un peu sur son potentiel. Mais à confirmer, évidemment, faut pas.
Messieurs, on va passer au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Cette semaine, nous avons un message dans le répondeur. Et oui, encore une fois, oui, c'est un message d'Adelin. Il nous l'a laissé en sonore. Je vous le laisse l'écouter dès maintenant.
Salut à tous. Cette semaine, c'est une question un peu plus technique. On parle que Mercedes aurait fait une sorte de garde au sol contrôlée. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Et est-ce que ça ressemble au système que Lotus avait développé l'année passée? À bientôt!
Et donc, Gus Gus, tu vas répondre à cette question et tu vas nous parler de pognon, bien évidemment.
Tout à fait. Oh, je vois que tu as préparé cette vanne depuis longtemps.
C'est dégueulasse, ils m'ont forcé à la refaire. Faut le savoir.
Tu peux, j'ai pas entendu.
Elle passait beaucoup mieux à l'écrit.
Oui, on va dire ça.
C'est chic.
Oui.
Et voilà, personne ne remarqué la petite blague qu'il a sortie.
Bah, mais quelle blague.
Et surtout pas
c'est
Ben.
Chic.
C'est dommage que Ben ne l'ait pas remarqué.
Arrête.
Tu crois que personne n'écoute de la musique.
Je vais te dire quelque chose. Ce que tu fais ne te grandit pas, les Français ne sont pas dupes.
le fric, c'est chic, c'est ça aussi.
Non.
Hein, Shinji, c'est ça, Shinji.
Mais oui, c'est ça. C'est ça, la vérité.
Ta gueule.
À qui?
Ta gueule, parce qu'il faut que je le place.
À qui tu mets ta gueule?
À Shinji.
Elle est même pas de moi, cette blague.
C'est la plus belle décision arbitrale que j'ai vue de toute ma vie.
Maintenant, t'as 5 minutes à remplir avec ta réponse, hein. Tu te démerdes.
Oh oui, ça devrait tenir. Hein. Mon cher Adelin, effectivement, on le sait, depuis 2011, Mercedes dispose d'un système de suspension différent de ses concurrentes, le fameux FRIC, donc, hein, on va pas revenir là-dessus, qui est l'acronyme de Front and Rear Interconnection, en bon français, interconnexion entre l'avant et l'arrière. Et derrière un nom aussi barbare que peu inspiré, parce qu'il a été choisi par des journalistes allemands qui ont compris que des bribes du système, donc derrière cet acronyme se cache la volonté d'améliorer la tenue de route de la voiture en limitant les mouvements du châssis par rapport aux roues, donc que le châssis plonge bouge de droite à gauche, que ce soit l'accélération au freinage ou en virage. Ainsi que de garder la voiture le plus près possible du sol pour générer un maximum d'appui aérodynamique. Plus la voiture est basse et plus le diffuseur et le fond plat vont générer, plus il y aura de dépression sous la voiture et plus donc ça va générer d'appui aérodynamique pour une meilleure performance en virage. D'ailleurs, c'est un objectif identique qui avait mené au développement au début des années 90 des suspensions actives, qui ont été inventées par Lotus et maîtrisées par Williams. Hein, on se souvient tous. C'est la fameuse, les fameuses Williams de 92 et 93 qui ont survolé la concurrence aux mains de Mansell et de Prost et qui passaient les virages à plat sans subir sans tanguer et sans bouger quoi. Elles étaient vraiment plantées sur le sol. Mais ce système de suspension active a été banni au début de la saison 1994 parce qu'il était jugé beaucoup trop efficace et beaucoup trop dangereux. Il était aussi trop coûteux et trop dépendant de l'électronique et c'est une interdiction qui tient donc toujours. Mercedes a donc dû trouver un moyen de viser un système totalement passif, en ce sens que seule la charge transmise par le pneu au châssis via le poussoir ou le tirant, hein, ça dépend de la suspension qui est utilisée, seule la charge de la roue doit jouer sur les éléments de suspension. Il n'est pas question qu'une pompe ou qu'un autre élément extérieur puisse intervenir sur la suspension, parce que c'est interdit spécifiquement par le règlement. Donc, dans le principe, la suspension FRIC relie d'une part les deux roues de chaque train, à l'avant et à l'arrière, de façon à limiter le roulis, c'est l'inclinaison vers la gauche ou vers la droite de la voiture. Et d'autre part, ça relie aussi les suspensions avant et arrière pour limiter ce qu'on appelle le tangage, c'est l'inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière de la voiture. C'est pour vraiment limiter les mouvements de la caisse par rapport aux roues et au sol. Pour ce faire, on utilise des connexions hydrauliques. On va faire en sorte que la force qui est exercée par la roue via les tirants ou les poussoirs va pressuriser un fluide de l'huile ou de l'air, va mettre un fluide sous pression, un peu comme dans un amortisseur, sauf que dans ce cas-là, on va chercher à équilibrer les pressions de chaque côté de la voiture. C'est-à-dire que quand sur une roue va s'exercer une pression, on va faire en sorte que la pression qui s'exerçait va être transmise de l'autre côté de la voiture, que ce soit si c'est à gauche, on va faire en sorte que ce soit transmis à droite pour faire en sorte que la voiture revienne à niveau et que les charges appliquées aux roues restent constantes pour avoir une voiture qui reste la plus stable possible. Vous m'arrêtez si...
Est-ce que Shinji comprend? Voilà, merci.
D'ailleurs, c'est une utilisation de l'hydraulique qui a été décrite par un ingénieur qui a voulu rester anonyme comme proche d'un système de freinage, en ce sens que la pression hydraulique vient de l'extérieur. Donc là, c'est la charge de la roue, et quand c'est le système de freinage, c'est directement le pied du pilote qui appuie, qui génère la pression nécessaire pour envoyer l'huile dans le système de frein, dans les conduits hydrauliques de frein. Il n'y a aucun intermédiaire entre le pied du pilote et le freinage, et entre le tirant ou le bras de suspension et le système fric dans ce cas-là. Au passage, donc, je me permets de contredire les propos de Jean-Louis Moncé dans Formula One, le magazine, parce que justement, il a parlé d'une pompe en ce qui concerne le système similaire employé par la Lotus, alors que c'est totalement interdit. Ça en ferait un système actif, parce que utilisant une intervention extérieure est différente de la charge appliquée par la roue. Donc ce serait totalement illégal. Donc il y a aucune pompe qui rentre en jeu dans le... Malheureusement, la connaissance exacte du fric va difficilement plus loin, secret oblige. Les débats entre spécialistes font rage sur Internet et ailleurs. Et on peut seulement qu'entrer dans la spéculation sur la base des photos qui circulent. Par exemple, on sait toujours pas si la suspension fric est une suspension à part entière, complètement indépendante d'une suspension classique. Si ça la remplace, ou si ça vient par-dessus en complément des suspensions classiques qui utilisent des ressorts, des amortisseurs ou des barres anti-roulis, quoi. On sait vraiment pas, les photos montrent pas clairement s'il n'y a plus d'amortisseurs ou s'ils sont toujours là, quoi.
Et c'est sur Sky, ils avaient interrogé, je pense que c'était à Bahreïn, Pat Simmons, à ce sujet-là, à propos du système fric, et il a aussi dit qu'il savait pas trop dans les détails il connaissait le principe, mais dans les détails comment ça marchait effectivement sur la Mercedes, il en avait pas trop l'idée, ou en tout cas il voulait pas le dire.
C'est un secret bien gardé.
Je pense qu'il a une bonne idée, plus précise encore à mon avis, mais j'espère pour lui. C'est vrai que c'est encore un truc un peu nouveau et que tout le monde peut le mettre un peu à sa sauce.
Après, on sait que des systèmes un peu moins évolués, mais quand même performants, existent depuis 2009. Alors c'est très précis si on en croit Craig Scarborough, qui travaille sur Autosport, qui est consultant technique pour Autosport. Lui affirme que depuis l'Allemagne 2009, hein, c'est très précis, que Renault avait introduit à l'époque un dispositif un peu similaire, même si moins évolué, qui est cherché à éviter que la voiture ne plonge au freinage, alors que le système fric travaille sur cet aspect, mais travaille aussi sur l'arrière et le côté droite-gauche de la voiture, quoi. Il stabilise carrément tous les mouvements. Et depuis, la majeure partie du plateau, même Marussia, paraît-il, qui a pourtant assez peu de ressources, a adopté un système similaire. Donc,
A priori, ça serait un système qui pourrait rester notamment l'an prochain, ou ça risque de faire comme beaucoup, c'est-à-dire ils vont le développer, puis à la fin de l'année, ils vont dire stop.
Ben, dans l'état actuel où est le règlement, parce que c'est quand même pas nouveau ce que fait Mercedes, comme je l'ai dit au début, c'est 2011. En tout cas, rien n'a été fait depuis 2011 pour aller contre ce système. Il y a vraiment aucune contestation possible par rapport au règlement, parce que ça respecte à la lettre et même l'esprit du règlement. Il y a aucun élément actif dans le système. C'est un système réactif plutôt qui agit sur la suspension.
Ouais, puis même Williams n'a pas encore trouvé un truc à redire, donc c'est vraiment embêtant, quoi.
Et donc oui, on n'est pas sûr que Lotus ait ce système. On a aussi lu à droite à gauche que Red Bull sera en train de le développer, mais encore une fois, il n'y a aucune preuve de l'existence du dispositif chez Red Bull.
La seule dont on est sûr, c'est Mercedes,
oui,
en fait.
Et Mercedes, on est sûr depuis 2011, c'est juste que le fait que ça a été... que les médias allemands se soient focalisés là-dessus, qui a fait que l'existence du système s'est répandue, quoi. Mais sinon, on le sait. Moi, j'en avais entendu parler, par exemple. En tout cas, en 2012, je savais que ça existait.
Oui, et puis c'est le fameux système sur lequel a râlé Lauda pendant l'hiver aussi, non? Il s'est plaint du système de suspension de la Mercedes qui était trop compliqué, ou...
Sûrement, ça a sûrement un rapport. Quant à la dernière partie de la question de d'Adling concernant la similarité avec ce qu'on avait appelé la suspension réactive début 2012, je sais pas si vous vous rappelez, le truc système qui avait été interdit même avant même les premiers essais privés, alors qu'il avait été autorisé au départ par la FIA.
Et ça, c'était un système qui était chez Lotus.
Oui,
ça,
exactement.
Ouais, ça, c'était chez Lotus.
Exactement. Ouais. Les objectifs de système étaient un peu plus modestes parce que c'était plus centré sur l'avant de la voiture. Et c'est un système qui utilisait le circuit hydraulique des freins directement pour fonctionner, ce qui, si on en juge par le règlement à la lettre, est interdit puisque c'est une intervention d'un système extérieur. C'est un peu comme, mais c'est un peu ce qui est étrange, c'est que c'est un peu comme le double DRS. Parce que le double DRS détournait un peu l'usage du DRS pour avoir un avantage aérodynamique et pourtant n'avait pas été interdit, alors que là ça détournait l'usage des freins pour manipuler la suspension et ça a été interdit de suite, quoi. C'est là un peu toute l'ambiguïté de la FIA quand elle prend des décisions.
C'est pour ça, quand tu vois un peu l'historique de l'écurie d'Elstone par rapport à ce type de problématique, ce serait presque étonnant qu'ils aient pas, en tout cas, le projet dans leur carton, quoi, si pas déjà sur la voiture.
Alors, apparemment, les dernières spéculations diraient qu'ils ont une partie du système, ils ont un mix des deux, en fait. Ils auraient une partie du système qui soit hydraulique dans cette façon-là, et ils auraient l'autre partie, la partie droite-gauche est conventionnelle, et la partie avant-arrière serait hydraulique, mais ça reste à confirmer. Là, je parle au conditionnel, donc notez bien que c'est, faut pas prendre ça pour argent comptant à la lettre, quoi.
Ok. Donc, au niveau des questions, c'est tout ce qu'on avait. Vous avez des envies de débat? Non? Oui? Non?
Pour ou contre la présence de Dino?
Il y aurait beaucoup à dire.
Non.
Bah, pour celui qui gagne ta gueule, pour, totalement. En fait. Ou alors il faut qu'Elder soit là, sinon c'est pas...
Non, bah dans ce cas on va finir l'émission, c'est pas un problème.
Puis ce sera plus court pour le montage.
Voilà,
voilà.
On va dire.
On s'arrange.
On vous rappelle, hein, si vous souhaitez nous poser une question au répondeur, vous pouvez soit aller sur le site savf1.fr, hein, il y a le module pour les messages sonores, sinon vous nous envoyez un message écrit à répondeur@savf1.fr. On vous rappelle aussi qu'il y a le concours Top Position et que pour le Grand Prix d'Espagne, c'est une casquette Ferrari. Parce que bon, voilà, Espagne, Alonso, donc forcément Ferrari.
Vous avez réfléchi 3 heures là-dessus.
De quoi? Pour la casquette?
Oui.
Mais non, mais parce que la casquette qu'on avait trouvée, en fait, finalement, elle était plus là, alors voilà. Donc on vous rappelle la question. Donc, écoutez bien. Combien de fois le champion du monde de la saison a gagné le Grand Prix de France l'année de son titre? C'est assez clair?
Oui,
c'est parfait.
Pour répondre à la question, là, cette fois-ci, c'est l'adresse concours@savf1.fr. Pas se tromper. Au passage, hein, si vous souhaitez participer aux émissions d'après-course, n'oubliez pas, hein, là, l'adresse, c'est l'adresse de contact, c'est contact@savf1.fr.
Toutes ces adresses qui commencent par con, c'est bizarre, hein, quand même.
Écoute, c'est Dino qui les a fait. Oh,
On retrouve sa patte.
C'est son style.
C'est sympa pour lui. C'est ce style de con.
De là à dire que c'est une vraie tête de... Bref. Nous ne le permettrons pas.
Ah non, quand même.
Sinon, on vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur Facebook. Il y a un groupe, SAV de la F1. C'est sur Twitter. Alors là, il n'y a pas de compte SAV de la F1, mais il y a nos différents comptes. Là encore, c'est pareil. Sur le site savf1.fr, vous avez les liens sur nos différents comptes. Sinon, il y a le hashtag SAVF1.
Oui, parce que j'ai vu des gens qui sont abonnés à @SAVF1. C'est pas nous. Il faut vous abonner.
Ah non, @SAVF1, ça n'existe pas.
Enfin, si, il y a quelqu'un, mais il y a jamais tweeté quasiment, mais c'est pas nous.
C'est, enfin, voilà, il y a pas de compte, les seuls comptes officiels avec la mention SAVF1, c'est le mien et celui de Dino, c'est Dino SAVF1 et Shiji SAVF1. Mais le compte SAVF1 tout seul, c'est pas le nôtre. Juste le hashtag. Sinon, on vous rappelle comme d'habitude qu'on est sur iTunes, qu'on est sur Podcast France, qu'on est sur Pod Radio, la chaîne Alpha, mais je sais plus à quelle heure vous regarderez. C'est sur le site Pod Radio.
Il y a plusieurs horaires.
Oui, en plus, il y a plusieurs horaires. Ça, c'est bien. Vachement bien. On vous rappelle que la F1 sur Internet, c'est sur...
fanf1.com.
Et le SAV de la F1, c'est...
La famille.
C'est gratuit.
C'est le rythme gratuit des podcasts familiaux.
etc.
Ouais,
etc.
Parce que j'ai vu que Dino avait rajouté sa patte dans la dernière émission, non, mais j'ai pas retenu tout. Hein,
une nouveauté par an. Il s'est un peu avancé de quelques mois, là. On rajoute un slogan.
Je sais même plus ce qu'il a rajouté.
Il a toujours été en avance sur son temps.
Ouais, sinon tu peux dire que le SAV F1, c'est les spécialistes F1 chaque semaine, quoi, tu vois, c'est...
Bah écoute, par rapport aux spécialistes F1 de Canal, j'ai pas envie de dire qu'on est mieux, mais on a les mêmes analyses. Donc en gros, si vous pensez qu'on dit des conneries, bah eux aussi disent des conneries. Et si vous pensez qu'ils disent des conneries, bah nous on dit les mêmes. Voilà, c'est kiff-kiff.
On en dit quand même moins que Jean-Louis Moncey.
Voilà, c'est tout pour l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, ça sera aussi un mag. Et attention, ne ratez pas le prochain mag du SAV.
Ah non.
On ne vous dit pas pourquoi, parce qu'on vous garde la
surtout
surprise.
Pas.
Puis tant que c'est pas fait, je préfère garder la précaution. Hein. Mais voilà, si vous qui êtes fidèle du SAV, ne ratez pas la prochaine émission.
Voilà, déjà que c'est bien d'habitude, la prochaine, ce sera encore mieux.
Que vous soyez fidèle ou fidèle même.
Les deux sont possibles.
Un dernier petit mot.
Jupe. Constantin.
Petit, on a dit.
Bon, alors...
Ben, un dernier mot.
Monaco.
Oui, si tu veux.
Monte Carlo.
Non, même. Mais...
Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.
Tu nous fais à chaque fois, Shinji, un dernier petit mot, donc ça va commencer...
Mais oui, mais soyez originaux, quoi.
Ouais, mais non, mais moi je peux changer, oui. Je peux changer. Moi, c'est Monte Carlo, moi, mon bien. Si tu veux.
Allez, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Et bonne semaine, parce que de toute façon, il n'y a pas de Grand Prix ce week-end, donc... Allez, ciao.
Salut.
Ciao.
Au revoir.